BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique. Et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business. Guillaume Paul.
18h, il est bientôt 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business dans l'actualité ce soir. Vous connaissez le proverbe, quand je me compare, je me console, etc., etc., etc. Bah, figurez-vous qu'Emmanuel Macron, qui vient d'arriver au G7 en Italie, va avoir l'occasion de croiser des homologues qui sont eux aussi en pleine panade sur le plan électoral. Ça vaut ce que ça vaut, mais on va quand même aller sur place, bien sûr, dans un instant. Sinon, ce soir, on va parler de la réforme de l'assurance chômage, parce que Gabriel Attal l'a dit ce matin, elle entrera en vigueur comme prévu et elle sera appliquée telle que prévu. Les syndicats sont furieux, eux qui avaient cru entrevoir une petite ouverture dans le discours d'Emmanuel Macron hier mercredi. Et puis alors attention, parce que les taux d'intérêt sont encore un petit peu remontés aujourd'hui sur les marchés. D'ailleurs, c'est une question qu'on posera ce soir. En cas de victoire du Rassemblement National, est-ce que vous voyez plutôt un scénario à la Mélanie qui donne des gages au marché ou à la Liz Truss qui fera se déchaîner les marchés? On posera la question à nos experts qui arrivent dès 18h30, bien sûr, en direct. Auparavant, 18h15, la grande interview. Deux invités au micro d'Edwige Chevrillon, le spécialiste des relations sociales Antoine Fouché et la déléguée générale du comité Colbert, Bénédicte Épinay. Voilà le programme non exhaustif. On est ensemble jusqu'à 20h. Bonne soirée.
Good evening business, le journal.
Donc oui, voilà qui va peut-être consoler un petit peu Emmanuel Macron de ses malheurs. Il vient d'arriver dans les Pouilles pour un sommet du G7 dont tous les invités dont il fait partie sont dans une situation politique quelque peu précaire. En fait, il n'y a que pour leur hôte, Giulia Meloni, que tout va très bien aujourd'hui. Mathieu Couache est sur place pour BFM Business.
Emmanuel Macron arrive affaibli à ce sommet du G7, mais pas plus que les autres dirigeants des pays les plus riches de la planète. En fait, on n'avait jamais vu un sommet du G7 avec des leaders dans des positions aussi difficiles dans leurs pays respectifs, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Canada, au Japon et bien sûr aux États-Unis. Des crises politiques partout. Ce sont six canards boiteux, comme on dit aux États-Unis, des chefs d'État et de gouvernement qui n'ont plus la même force politique qu'avant, qui se retrouvent dans les Pouilles en Italie pour 2 jours et ils sont reçus par une femme qui, elle, va très bien. Et c'est un hasard du calendrier qu'elle préside ce G7. C'est bien sûr Giorgia Meloni, représentante de l'extrême droite européenne. Elle a l'ambition de mener la danse pendant ce sommet face à ces 6 hommes affaiblis. Elle veut d'ailleurs pousser ses positions sur l'immigration, sur le soutien à l'Ukraine qu'elle souhaite plus important. Et elle essaie même de faire disparaître du communiqué final l'idée d'un accès garanti à l'avortement pour les femmes des pays du G7.
Voilà, Mathieu Couache, donc en Italie pour BFM Business, sommet du G7 qui sera effectivement en grande partie consacré au conflit russo-ukrainien. Volodymyr Zelensky sera d'ailleurs présent. Le sommet devrait entériner un accord sur l'usage des actifs russes gelés depuis 2 ans pour renforcer l'aide à l'Ukraine. On parle mine de rien d'un pactole évalué à 50 milliards de dollars d'ici la fin de cette année. Pendant ce temps, en France, la campagne continue. Avec donc cette mise au point de Gabriel Attal sur l'assurance chômage, la réforme entrera bien en vigueur telle qu'elle a été présentée. Les syndicats qui avaient cru déceler une petite ouverture hier dans le discours d'Emmanuel Macron sont littéralement furieux. Caroline Morisseau.
Gabriel Attal ferme très clairement la porte aux syndicats. Pour lui, pas question de faire marche arrière. La réforme sera mise en œuvre telle qu'elle a été annoncée. Le décret sera bien publié comme prévu d'ici le 1er juillet. Reste à savoir si cette position sera tenable. Derrière, les syndicats font monter la pression. Ils ont de nouveaux chiffres à faire valoir. L'UNEDIC vient de leur remettre une étude qui permet de mesurer l'impact de cette réforme. Elle va certes générer d'importantes économies, jusqu'à 5,4 milliards d'euros par an en rythme de croisière, un montant nettement supérieur au 3,6 milliards d'euros annoncés par le gouvernement. Et encore, c'est sans compter la nouvelle baisse de la durée d'indemnisation qui pourrait intervenir si le chômage tombait sous les 6,5%. Mais cette réforme aura aussi de lourdes conséquences sur les futurs chômeurs, puisque toujours selon l'UNEDIC, plus d'un allocataire sur deux sera concerné, soit par la baisse de la durée d'indemnisation, soit par le durcissement des conditions d'ouverture des droits, mesure qui touchera plus particulièrement les jeunes et les plus précaires qui enchaînent des contrats courts.
Voilà pour cette réforme dont on parlera bien sûr avec nos experts jusqu'à 20h sur BFM Business. Autre réforme dont l'avenir là est très incertain puisqu'elle n'est pas censée passer par décret, c'est la loi d'orientation agricole. Le ministre en tout cas veut montrer qu'il ne lâche pas la profession en pleine campagne électorale. Il y a donc eu une grosse réunion ce matin au ministère à Paris. Pauline Tadevin.
La réunion au ministère était plutôt technique. Un point sur l'avancée des mesures de simplification promises par le gouvernement après les manifestations. D'après un participant, il n'a pas été franchement question des incertitudes provoquées par la dissolution. C'est pourtant au cœur des inquiétudes du secteur. Le patron du principal syndicat agricole, la FNSEA, appelle l'exécutif à aller au bout de ses engagements d'ici le 7 juillet sur Egalim ou sur les produits phytosanitaires. Il appelle aussi l'ensemble des candidats aux élections à intégrer dans leur feuille de route leurs revendications en termes de revenus ou de simplification. Ni défiance ni complaisance, dit-il, le monde agricole veut des solutions. Il se montre quand même sceptique sur certaines propositions du RN qui veut renationaliser la PAC ou sortir des accords de libre-échange. Il critique la coordination rurale qui s'est dit, comme Jordan Bardella, favorable à l'exception agriculturelle. Du côté de la Confédération paysanne classée à gauche, on défend un projet progressiste et social en totale opposition, nous dit-on, avec les propositions agricoles du Rassemblement national.
Voilà le gouvernement qui ne veut pas lâcher les agriculteurs pendant la campagne. Dans l'actualité des entreprises, forcément, sa parole était très attendue. Le patron de Stellantis, Carlos Tavares, a réagi tout à l'heure à la décision, vous savez, hier de Bruxelles, de surtaxer l'importation des voitures électriques chinoises. Il l'a fait depuis Détroit à l'occasion d'une journée investisseur. Il a profité pour commenter le petit coup de mou que traverse Stellantis depuis quelques temps. Justine Vassogne est à Détroit pour BFM Business.
Oui, car l'étoile de Stellantis, le champion de la performance, a quelque peu pâli ces derniers mois avec notamment un mauvais premier trimestre et des ventes en recul de 10%. Stellantis a confirmé aujourd'hui que son premier semestre serait moins bon qu'il y a un an avec une marge entre 10 à 11% contre plus de 14% en 2023. Mais le constructeur compte sur un bon second semestre et bien pour rebondir. Carlos Tavares ne semblait pas inquiet. Nous allons vous montrer la puissance de Stellantis, a-t-il dit à ses investisseurs, une puissance nécessaire dans un monde de plus en plus fragmenté. Carlos Tavares est revenu sur l'augmentation des droits de douane en Europe pour les voitures chinoises. Nous n'avons pas attendu cette décision pour agir. Le constructeur vient de nouer un partenariat avec le chinois Leap Motors pour exporter ses voitures électriques en Europe. Et bien, certaines de ces voitures seront produites en Europe dans les usines de Stellantis. Une décision prise avant le verdict de Bruxelles, a assuré Carlos Tavares. Le patron de Stellantis s'est aussi félicité de la stratégie multi-énergie de son groupe sur une même plateforme et dans une même usine. Eh bien, on peut produire des voitures électriques ou bien thermiques. Cela permet au groupe d'être agile, de ralentir ou d'accélérer son électrification dans un monde incertain et puis de s'adapter évidemment aux leaders politiques au pouvoir. Un mot tout de même sur la crise des airbags qui secoue le groupe aujourd'hui. Eh bien, pas un mot justement de Carlos Tavares sur la question.
Justine Vassogne à Détroit pour BFM Business, 18h07, on va sur les marchés.
Votre programme avec Salva by Garance. Votre épargne autrement. Salva, Salva le faire, Salva le faire.fr. Tout investissement comporte des risques de perte en capital.
Étienne Brack, bonsoir. Euronext à la Défense pour BFM Business. Plus bonsoir. Forte baisse depuis quelques mois apparemment, Antoine, ce soir. Étienne.
Etienne, oui, juillet 2023, 2% de baisse quand même ce soir pour le CAC 40. C'est une baisse plus importante. Rappelez-vous que le lundi est l'annonce surprise d'Emmanuel Macron sur de nouvelles élections législatives. Figurez-vous que le CAC 40 est sur des plus bas de mi-février. Il a même perdu en séance les 7700 points. Il ne gagne plus que 2,3% depuis le début de l'année. Alors si ça peut vous rassurer, c'est une baisse généralisée en Europe, moins 2% pour l'Eurostock, moins 2% pour la bourse de Francfort, pour la bourse de Milan. Comme on l'a vu en début de journal, incertitude totale aujourd'hui en Europe, des pays qui sont fragilisés et les Américains qui ont très largement vendu les marchés européens depuis 14h30. À noter que le secteur bancaire perd à nouveau entre 3 et 4%. Automobile également est en forte baisse avec un risque de représailles par rapport aux taxations chinoises que souhaite mettre en place Xi Jinping par rapport aux taxes qu'il pourrait mettre à jour. Donc suite à cela, vous avez Porsche qui perd plus de 4% ou encore Stellantis qui perd plus de 3% ce soir à la clôture et donc la Bourse de Paris qui s'enfonce à nouveau moins 2% ce soir au fixing, 7708 points.
Merci beaucoup Étienne. Étienne Brack avec nous sur BFM Business, 18h08, la grande interview d'Edwige Chevrillon à suivre dans un instant. Deux invités, le spécialiste des relations sociales Antoine Fouché pour parler retraite, pour parler assurance chômage. Et puis la déléguée générale du comité Colbert, Bénédicte Épinay, pour parler luxe. Très bonne soirée sur BFM Business. À tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On va parler des jeunes, mais de manière très différente. On va parler des jeunes et de leur retraite. On en parlera avec Antoine Fouché dans un instant, qui est le président de Quintet et un des grands experts sociaux. On parlera de ce dossier des retraites qui s'invite au cœur de la campagne. Et puis ensuite, on parlera des jeunes, de leur rapport au luxe. Vous savez qu'ils adorent le luxe, ils adorent les marques, ils adorent Instagram, mais ils aiment aussi visiblement leurs parents. En tous les cas, c'est le résultat d'une enquête passionnante qu'a fait le comité Colbert et sa déléguée générale Bénédicte Épinay est déjà en studio avec nous. Bonjour Bénédicte Épinay.
Bonsoir Élise Février.
Merci d'être là. Merci. Mais tout de suite, on va parler des retraites, parce que vous le voyez bien, les retraites, c'est exactement le sujet que tout le monde, la balle que tout le monde se renvoie au cœur de cette élection législative. Antoine Fouché, vous êtes avec nous. Merci beaucoup. Vous êtes un des grands experts sociaux. Vous êtes souvent sur BFM Business. Et on avait envie de vous entendre pour voir pourquoi ce dossier des retraites cristallise un peu la difficulté de cette élection législative. Pourquoi c'est vraiment au cœur de la campagne ?
C'est au cœur de la campagne, me semble-t-il, pour deux raisons. La première, c'est que ça a été au cœur de la contestation de la réforme des retraites il y a maintenant un an. Et donc, ça a été un sujet qui a rassemblé une majorité de salariés et peut-être même de Français contre cette réforme. Donc, il y a évidemment la tentation d'instrumentaliser ce qui est encore dans toutes les mémoires pour essayer de gagner des voix de ce côté-là. Et c'est aussi, me semble-t-il, au cœur de la discussion, parce que c'est un enjeu financier très important et qu'étant donné l'état des finances publiques, un certain nombre de promesses qui avaient été faites, par exemple celle d'abroger tout simplement la réforme des retraites, n'est pas possible. Et ceux qui prétendaient ça, je pense notamment au Rassemblement National jusqu'à très récemment, ont déjà commencé à faire marche arrière. Vous aurez noté par exemple que n'est plus dans les 8 propositions qu'ils ont présentées aujourd'hui. Je pense que très certainement ils se disent qu'à aussi près du pouvoir, l'équation financière ne tient pas et que donc maintenir cette proposition, ce serait se donner un bâton trop visible pour se faire battre sur l'irresponsabilité financière.
Vous avez raison, Jordan Bardella a dit que ce serait dans un deuxième temps d'abord qu'il faudrait faire un audit des finances publiques parce que les finances se trouvent dans un état catastrophique, je cite. Cette histoire des retraites, vous avez vu bien sûr le rapport du COR, du Conseil d'orientation des retraites, qui dit que, en clair, la dernière réforme sur laquelle vous avez travaillé, Antoine Fouché, cette dernière réforme, en fait, elle n'a pas vraiment permis de remettre le système à l'équilibre puisqu'on serait avec un déficit de l'ordre de 4,6 milliards. Ça veut dire qu'il faut aller encore plus loin ?
Malheureusement, les retraites, c'est quelque chose qui... l'équilibre financier dépend de deux grands paramètres sur lesquels on peut voter toutes les lois au Parlement du monde. On a beaucoup de difficultés à le changer. C'est un, la démographie. Quel est le nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités ? Et ça, on ne peut pas faire d'enfants qui auront 20 ans l'année prochaine et on ne peut pas faire des lois pour qu'il y ait beaucoup plus d'enfants beaucoup plus vite. Et puis les gains de productivité, et les gains de productivité, ça dépend largement de la part de l'industrie dans le PIB. Et la France est devenue l'un des pays les plus désindustrialisés d'Europe, plus que le Royaume-Uni. On est au même niveau que la Grèce en industrie manufacturière. Et ça ne prend pas des années, mais des décennies à rétablir. Et ces deux paramètres font que, de toute façon, on pourra prendre toutes les décisions que l'on veut, ils s'imposeront, ces deux paramètres s'imposeront, c'est un principe de réalité, et c'est ce qui fait que tous les partis, quoi qu'ils en disent, seront contraints d'augmenter la durée du travail pendant la vie, parce que sinon, on n'arrivera jamais à rétablir l'équilibre financier du système de retraite. Donc oui, pour répondre à votre question, pardon pour le détour, mais oui, ça ne suffit pas. Et oui, il faudra travailler davantage. C'est aussi mathématique que la loi de la gravité et on pourra voter toutes les lois qu'on veut au Parlement. Ça ne changera rien à ce qui est, encore une fois, mathématique.
En même temps, on peut dire que les prévisions du COR, elles se sont révélées souvent inexactes.
Mais jamais dans le bon sens, jamais dans le bon sens pour les salariés, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire toujours trop optimiste et jamais trop pessimiste. Et là, la prévision qui sort est déjà une prévision quand même qui est assez plutôt optimiste sur le taux de fécondité, sur le recours à l'immigration. Mmh. Et on est sur un recours net à l'immigration de 70 000 personnes en plus chaque année. L'une des mesures du Rassemblement national, par exemple, est appliquée, qui consiste, je cite, à limiter drastiquement l'immigration légale et illégale, et que la mesure est appliquée et fonctionne, alors le déficit sera encore beaucoup plus important.
Ouais.
Et donc la durée de travail pendant la vie devra augmenter encore plus.
Ouais.
Maintenant, la question qui va se poser, me semble-t-il, c'est que, étant donné que la dernière réforme quand même a été largement rejetée par les Français, c'est le voie de passage, la réforme à inventer qui fait que chaque salarié, fonctionnaire indépendant, mm-hmm. accepte de prendre sa part.
Voilà. Et alors ?
Et c'est une réforme juste des retraites à inventer. Alors, moi, à titre personnel, je pense que nous n'avons pas d'autre choix que de revenir à la réforme à point, c'est-à-dire de la définition la durée de travail, la quantité de travail que chaque individu doit à la collectivité avant d'avoir le droit de prendre sa retraite.
Ouais.
Ce qui fait, me semble-t-il, que ça a été très difficile l'année dernière, c'est que beaucoup de gens avaient un sentiment d'injustice, et ce qui fait que ça a été violent et massif, les protestations, en tout cas violent dans le ressenti, pas physiquement, c'est que c'était vrai.
Ouais.
Et c'était vrai, il y a des gens qui vont... même avec la réforme, qui devait travailler 44 ans et d'autres 43, et ça, c'est pas juste.
Ok, Antoine.
C'est pour ça qu'il nous faut une réforme à point.
Oui, d'accord, on a compris votre plaidoyer. Juste, oui, non, l'assurance chômage, un décret le 1er juillet, est-ce qu'il faut l'appliquer tout de suite ou pas, ou attendre, voir quel gouvernement sortira de l'élection législative le 8 juillet, enfin 8 juillet ou plus?
Il faut l'esprit des institutions, ça me semble clairement que d'attendre. Et c'est d'ailleurs ce qu'a dit le président de la République dans sa conférence de presse.
Merci.
Après, le Premier ministre n'a pas semblé dire la même chose ce matin. Mais
on est bien d'accord, c'est pour ça que je vais vous poser la question.
De toute façon, les mesures ne s'appliqueront qu'au 1er décembre. Donc même si le décret est pris pour appliquer les mesures, nouvelle majorité, s'il y a une nouvelle majorité, aura la possibilité de prendre un décret qui fait que ça ne s'appliquera jamais.
Merci beaucoup Antoine Fouché d'avoir pris le temps d'être avec nous, le président de Quintet. Tout de suite, on va parler des jeunes, mais comment ils s'intéressent au luxe.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Bénédicte Épinay, vous êtes délégué général du comité Colbert. Le comité Colbert, ça regroupe 93 marques.
Maisons,
comme on va beaucoup parler de marques, les grandes maisons du luxe à la française, et Dieu sait que c'est important, notamment, c'est le premier poste dans l'économie française, donc c'est très, très, très important.
Presque 40% du CAC 40.
Oui, vous vous rendez compte. 14 secteurs d'activité. Et alors là, vous avez fait une étude, moi, que j'ai trouvée passionnante, sur les jeunes. Parce que les jeunes, comment est-ce qu'ils consomment? Je sais que ce mot va vous choquer, mais comment est-ce qu'ils consomment le luxe? Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte que... il y a Rihanna, il y a Instagram, il y a les réseaux sociaux, il y a les célébrités, bien sûr. Mais en fait, il y a d'abord les parents. Il y a un côté héritage familial.
Absolument.
Du luxe.
Et
racontez-nous.
Ça, c'est la vraie surprise de cette étude, de cette enquête que nous avons faite avec Sociovision, Brain Value et Le Figaro. Nous sommes associés pour essayer de comprendre effectivement comment les jeunes... Alors, on s'est intéressé au haut de la pyramide, hein, les jeunes les plus aisés, comment ils acquièrent cette culture du luxe. Et effectivement, la grande surprise...
Pardonnez-moi, en France, aux États-Unis et en Chine.
Voilà,
oui.
Tout à fait, c'est important, merci de le rappeler. Et donc, notre grande surprise, c'est de découvrir... Vous l'avez dit, c'était assez drôle d'ailleurs de se dire que, évidemment, il y a Rihanna, il y a toutes les célébrités, voilà, que tous ces jeunes observent sur les réseaux sociaux, qu'ils guettent, Instagram surpuissant. Mais les parents, ils sont là. Et tous ces jeunes, eh bien, que ce soit en France, 48%, je regarde mes chiffres, aux États-Unis, 69%, et en Chine, 84%, c'est énorme.
Incroyable.
Ils apprennent le luxe de leurs parents.
Ouais.
La conséquence de ça, c'est qu'ils achètent les mêmes marques que leurs parents.
Ouais. Il y a un héritage familial.
Absolument. Et de leurs parents, alors, les mêmes marques, alors, ils n'achètent pas les mêmes produits dans les marques, hein, ils vont vers des choses probablement plus jeunes, mais de leurs parents, ce qu'on reconnaît aussi dans cette étude, c'est que les parents transmettent l'idée de la qualité, l'idée du savoir-faire, comment on le reconnaît. Et ça, c'est très important finalement, parce qu'on pensait que cette jeunesse n'avait pas forcément de la valeur valeur, mis de la valeur là-dedans.
Oui, qu'il y avait une rupture, quoi.
Il y avait une rupture. Mm-hmm. On pensait même que c'était les jeunes qui éduquaient les parents. Tiens, je vais t'emmener dans une petite marque. Alors, tout ça existe, effectivement, mais il y a quand même une transmission qui s'effectue des parents à enfants.
Oui, parce que c'est vrai que les jeunes, ils cherchent aussi des nouvelles marques, des marques innovantes. Mais donc, le luxe, une histoire de famille, parce que c'est important, ça marque un peu l'histoire de la jeunesse, un anniversaire, la réussite au bac.
Les grands moments de la vie, finalement.
Les grands moments de la vie.
Les grands moments de la vie, on les célèbre toujours. Donc, c'est ça aussi ce qu'on apprend de cette étude. On les célèbre toujours avec un produit de luxe, un objet de luxe. Et puis, ce qu'on apprend aussi, c'est que beaucoup de ces jeunes ont hérité de leurs parents, de leurs grands-parents, un objet de luxe qu'ils conservent.
Qu'ils conservent soigneusement.
Voilà, soigneusement, voilà, absolument.
Juste, il y avait une enquête, du reste, que vous connaissez bien, hein, parce que vous l'avez dirigé pendant longtemps dans les échos week-end, sur comment la tech, le luxe, même envahit la tech. C'est ça qui est... Avant, on les voyait tous avec leur capuchon, les Mark Zuckerberg, les Elon Musk, même les Jeff Bezos. Maintenant, ils sont tous hyper chicos, etc. Donc, le luxe est vraiment... c'est devenu...
C'est un marqueur,
marqueur.
Hein, absolument. Et on voit même, c'est chez jeunes... Alors, le luxe a envahi presque leur vie quotidienne. Mm. Moi, ma génération, le luxe, c'était par petites touches, c'était exceptionnel, pour des moments exceptionnels. Les jeunes, on voit très bien qu'ils veulent vivre ça continuellement. Alors, c'est parfois un bâton de rouge à lèvres ou une bouteille de parfum, mais ils veulent vivre le luxe, pas de manière occasionnelle, mais de manière continue.
Alors, bon, cela dit, mais on le voit bien, ça se voit, parce que c'est des générations qui sont complètement dopées aux marques.
Ils ont été biberonnées.
C'est la marque, biberonnée, si vous préférez. Bon, pour vous, c'est formidable, hein, pour vos 93 maisons.
C'est un puits sans fond.
Oui, c'est un puits sans
fond.
Voilà,
c'est un puits sans fond.
Et une capitalisation boursière sans fond.
Voilà, qui augmente aussi. Alors, bon, ça dépend de la trajectoire de la bourse aujourd'hui, mais effectivement c'est un puits sans fond. En fait, ce qu'on aperçoit, ce qu'on comprend de cette étude, c'est que depuis que la civilisation existe, ce marqueur qui est de se dire on se récompense par un bel objet, autrefois on n'appelait pas ça un objet de luxe, aujourd'hui on appelle ça un objet de luxe, ça reste en fait. Mmh. Quelle que soit l'époque, quand on a envie de se récompenser, quand on a envie de marquer un événement de sa vie, on pense à un objet de luxe.
Oui.
On pense, voilà.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir dans cette étude, c'est qu'est-ce qui vous influence, en fait. Donc, il y a papa, maman, ok, très bien. Mais, alors, vous me direz, c'est pas un scoop, hein, mais les célébrités, ça peut être des sportifs, et de plus en plus, ça peut être Rihanna, je parle de Rihanna, mais les célébrités, c'est ce qui fait que vous avez envie ou pas d'acheter une marque. Ce qui est très important parce que ça change complètement la stratégie de communication des marques de luxe.
Ah bah oui, qui est devenue essentiellement digitale. Vous l'avez dit en introduction, Instagram, le réseau social majeur, célébré par tous ces jeunes qui postent, qui regardent. Et ça, c'est une vraie différence aussi par rapport à la génération d'avant. Les célébrités, il n'y en avait pas. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, on parlait pas d'abord, on parlait pas de digital, mais on parlait pas non plus de célébrités. Donc là, il y a une vraie rupture aussi.
Et surtout, c'est que les célébrités, elles se prêtent au jeu.
Ah ben oui, évidemment.
Alors qu'avant,
ce n'était pas le cas. Oui, tout à fait, tout à fait. Et vous avez raison, les célébrités, aujourd'hui, elles sont très variées parce qu'on les trouve dans différents mondes. Et vous avez cité le monde sportif qui est effectivement, à la veille des Jeux Olympiques, un gros pourvoyeur de célébrités.
Oui, mais elle coûte très cher. J'imagine que d'avoir Rihanna, d'avoir Mbappé, d'avoir... ça coûte très cher.
Ça coûte certainement très cher, mais ça génère aussi beaucoup de chiffre d'affaires.
Oui. Donc, et vous avez une idée de combien elles sont payées?
Aucune idée, non. Je ne voudrais pas me lancer dans des chiffres, mais certainement en regard du chiffre d'affaires généré.
Oui. Vous avez, et encore une autre question perverse, si j'ose dire. C'est quelle est la star qui fait, la célébrité qui fait vendre le plus?
Ça dépend de la marque.
Mais
on voit bien que d'ailleurs, même entre les jeunes et leurs parents, sur les parents, on est plutôt sur une optique de ce qu'on a appelé le quiet luxury, vous savez, le old money luxury, c'est-à-dire les marques iconiques qu'on va se transmettre. Chez les jeunes, il y a quand même plus de recherche de créativité, de marques, et du coup, ça change évidemment la physionomie des célébrités qu'ils vont suivre et qu'ils vont apprécier.
Donc, le poids des réseaux sociaux, il est très très important.
Il est très important.
On a parlé de Instagram qui écrase tout, mais pas que. Mais surtout, c'est un vecteur d'information sur la marque. Hein.
Alors, ce qu'on note très clairement, c'est que les jeunes se servent aujourd'hui de ces réseaux sociaux comme de moteurs de recherche.
Oui.
Voilà.
Oui,
ils vont à la pêche aux infos sur ces réseaux sociaux.
Qu'est-ce qu'il faut acheter, quoi.
Et voilà, absolument. Donc, je tape une marque, je vais regarder ce qui a été posté, et puis j'achète si j'en ai les moyens, évidemment, ou en tout cas, j'essaye de me rapprocher.
Oui. Est-ce que Est-ce que vous avez le sentiment que ils cherchent les marques, mais est-ce que les influenceurs, par exemple, ont un rôle toujours aussi important?
Ah oui, 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 très oui. Clairement. Oui, oui,
très clairement. Pas, ils ont été très. Ou alors ils se font leur propre opinion eux-mêmes. Non, ils suivent.
Non, non, ils suivent.
On a l'impression que les influenceurs étaient moins.
Il y a quand même un libre arbitre. Voilà, je choisis la célébrité que je vais suivre. Ce qu'on note en France, qui est quand même qu'on ne voit pas ni aux États-Unis ni en Chine, c'est l'importance aussi du magasin. Le magasin reste aussi un vecteur d'influence important.
C'est un peu contradictoire. Les Français... Le digital, les magasins, vous voyez, c'est un peu contradictoire comme.
Ben, non, parce que je m'informe sur le digital. Je vais chercher de l'information. Et je vais vérifier cette information en rentrant dans le magasin. Et là, je vais chercher à être reconnue dans ce magasin, à toucher les produits. Et je conclue mon achat dans le magasin.
Oui. En fait, le luxe, pourquoi c'est si important, c'est que ça devient, et pour tous, et on parlait de la tech, mais c'est la même chose, ça devient un badge social.
Absolument. Le mot est très bien choisi. C'est un badge social, c'est un marqueur et c'est un lifestyle. Aujourd'hui, ces jeunes se reconnaissent entre eux par l'identification immédiate des marques, là où leurs parents sont plutôt sur quelque chose de plus discret, plus caché, en mode j'ai bien reconnu ta veste, je sais quelle marque elle est.
Je sais qui tu es, quoi.
Voilà. Et on fait partie du même club.
Et ce qui est intéressant, c'est que ce soit chinois, français ou américain, grosso modo, à quelques pourcentages près, c'est à peu près les mêmes tendances.
Absolument. Ouais. On observe la même chose partout, avec peut-être même quelque chose de plus fort encore en Chine.
Ouais.
Cette volonté de suivre les célébrités, la transmission des parents, tout ça est plus fort, exprimé plus fortement en Chine.
Merci beaucoup, c'est passionnant. On peut retrouver ça sur le site du...
Sur le site du comité Colbert. L'étude est en open source, donc en libre consultation.
Merci beaucoup. Grosse
Merci
étude,
beaucoup.
Hein, quand même, avec en plus des apartés. Vous avez travaillé sur le fond. Merci beaucoup, Bénédicte Épinay, d'avoir été avec nous. Donc, délégué général du comité Colbert. Tout de suite, les infos avec Guillaume Paul, bien sûr. Est-ce qu'il a du luxe sur lui? On va regarder.
BFM Business, l'info éco.
18h30 sur BFM Business dans l'actualité ce soir. Petite respiration pour Emmanuel Macron qui est arrivé dans les Pouilles en Italie pour un sommet du G7 qui sera en grande partie consacré au conflit russo-ukrainien. Volodymyr Zelensky d'ailleurs sera sur place. Le sommet devrait entériner un accord sur l'usage des actifs russes gelés depuis 2 ans pour renforcer l'aide à l'Ukraine. On parle mine de rien d'un pactole qui est évalué à 50 milliards de dollars d'ici la fin de cette année. Pendant ce temps, en France, la campagne des législatives continue. Et Gabriel Attal lui a dit les choses clairement ce matin. Un décret sur la réforme de l'assurance chômage sera bien pris d'ici le 1er juillet. La réforme sera validée telle qu'elle a été présentée le mois dernier. Il réaffirme donc que les conditions d'indemnisation seront durcies et la durée d'indemnisation maximale revue à la baisse. Et puis, nouvelle réaction de Pékin suite à la décision hier, vous savez, de Bruxelles de surtaxer les importations de voitures électriques chinoises. Les autorités chinoises ont fait savoir aujourd'hui qu'elles se réservaient le droit, je cite, de porter plainte sur le sujet devant l'Organisation mondiale du commerce. 18h31, on revient dans un instant avec nos experts pour commencer à décrypter l'info, bien sûr. À tout de suite.
Tout investissement comporte des risques de perte en capital.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h35, les experts sont là. Première partie jusqu'à 19h pour décrypter l'actu. Samuel Botton est avec nous. Samuel, bonsoir. Expert en communication. Alexandre Malafaille, bonsoir Alexandre, bienvenue. Bonjour. Président fondateur de l'Institut Sinopia, du think tank Sinopia. Puis Edwige Chevrayant, bien sûr, qui reste avec nous. Rebonsoir Edwige.
Rebonsoir.
Je suis fasciné par l'attrait croissant des jeunes pour le luxe, qui du coup est un secteur, on le disait, qui ne connaît pas la crise, qui ne démarre pas finalement.
C'est le moins qu'on puisse dire. Bénédicte Épinay, donc la déléguée générale du comité Colbert, nous rappelait que avant le Covid, ça pesait 28% le luxe, 28% du CAC 40. Aujourd'hui, c'est 38%, presque 40%. Donc, vous vous rendez compte, c'est là où on voit le poids du luxe. Il faut dire qu'on a quelques magnifiques maisons. Le Made in France est quelque chose qui vaut très cher. Ce qui est intéressant, c'est une étude qu'ils ont faite auprès de jeunes en Chine, en Amérique. Et en France, on pourrait dire que c'est complètement différent qu'en culture, notamment en Chine, pas du tout. Enfin, deux facteurs, c'est que les parents, c'est un héritage, il y a un côté héritage, statut social, très important, mais qu'en même temps, ils sont fascinés par, et de plus en plus, par les célébrités, par Rihanna, et ce qui est très intéressant, vous me direz, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, par les sportifs. Les sportifs sont devenus les grands vecteurs d'achat du luxe.
On a vu avec le rassemblement de l'équipe de France, le jour à Clairefontaine, où chaque joueur sortait de sa voiture pour rejoindre le camp d'entraînement avec des vêtements bien particuliers.
Oui, il posait bon, comme ça, que, ben voilà, Mbappé voilà, qui est devenu l'égérie Dior.
Oui,
c'est presque trop, quoi. C'est-à-dire que maintenant, rien n'est épargné.
Mais ce qui est intéressant, c'est quand elle dit, en fait, maintenant, les jeunes célèbrent un moment de vie avec un objet de luxe, quel qu'il soit, finalement. Ouais. C'est assez impressionnant.
C'est-à-dire, c'est, ça, c'est presque les parents. C'est comme ça qu'ils ont été éduqués.
Oui, c'est comme ça qu'ils ont été éduqués.
Donc, c'est lié à une réussite du bac ou à quelque chose d'important. C'est, ça jalonne, en fait, toute votre vie.
Oui.
Voilà. Donc, on pensait que c'était une manière aussi, enfin le luxe c'est quelque chose qui leur appartenait.
Oui.
Non, il faut qu'il y a quand même, une histoire derrière.
Oui.
Et ils aiment les marques, mais leurs parents, même s'ils n'achètent pas du tout la même chose.
Ils achètent pas les mêmes. Voilà, c'est, qu'ils n'achètent pas les mêmes marques pour le coup.
Mais c'est intéressant de voir cet attachement au luxe.
Absolument.
Qui devient un badge social. Et je disais que dans la tech, quand vous regardez les Zuckerberg, les Elon Musk, les Jeff Bezos qu'on a tous vus habillés avec leurs survêtements un peu crades, machin, avec leurs baskets et leurs capuches, et bien maintenant ils sont devenus absolument, eux aussi ils sont devenus des effigies du luxe.
Voilà pour ce secteur du luxe qui ne connaît pas la crise. Bon, la transition n'est pas facile, on va passer sur l'assurance chômage, malheureusement, c'est le sujet du jour. Ben oui, parce que vous avez peut-être entendu. C'est pas un luxe, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, parce que Gabriel Attal, ce matin, a mis les choses au clair en disant, ben voilà, cette réforme, elle entrera en vigueur. Il y aura bien un décret pris d'ici le 1er juillet, et c'est une réforme qui entrera en vigueur en l'état, en durcissant les conditions d'indemnisation, en rétrécissant quelque peu la durée d'indemnisation aujourd'hui. Les syndicats sont furieux parce qu'encore hier, ils pensaient avoir entrevu une petite éclaircie du côté d'Emmanuel Macron. Peut-être une possible capacité à amoindrir un petit peu l'impact de la réforme. Est-ce que Gabriel Attal est allé draguer sur les terres de la droite républicaine finalement ce matin en faisant cette mise au point, Alexandre? Comment est-ce que vous regardez ça?
C'est quand même le sentiment d'une forme de provocation. C'est peut-être pas le bon moment pour faire ça. D'abord parce que ça pose quand même une vraie question de fond. Dimanche soir, globalement, ils ont perdu leur légitimité démocratique.
Oui.
Alors il a la légalité jusqu'au 30 juin, enfin jusqu'à temps qu'il soit plus Premier ministre, légalité pour faire des choses et les décrets rentrent dans son champ de compétences. Mais quand même, sur un plan de la légitimité, il est un peu fragilisé.
Oui, mais il y a un aspect technique. Un aspect technique. Ils sont obligés.
Ah, mais on est d'accord.
De prendre ce décret.
Mais je suis d'accord.
Parce que c'est la fin de la convention.
Sinon, il n'y a plus d'indemnisation. Oui, c'est ça.
C'est obligatoire.
Je suis d'accord. Il y a un shutdown au 30 juin.
Exactement. Donc 1er juillet, il n'y a pas photo.
Vous faites une partie de ce que j'avais prévu de dire, donc il n'y a aucun problème. Sauf qu'il pouvait très bien annoncer qu'il prenait un décret, ça va prolonger en l'état et en l'existant le système actuel, le temps que voilà, une nouvelle équipe se mette en place, pourquoi pas lui s'il est reconduit, et qu'on conduise effectivement, mais dans cette période de campagne, un peu de sérénité, parce que quand on voit qu'en plus il y a les 8 organisations syndicales salariales qui ont effectivement se sont opposées à l'accord, ce qu'on a vu avec la réforme des retraites et ce qu'on reverra avec ça, c'est qu'il y a un effet boomerang. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens se vengent. Voilà. La réforme des retraites, elle n'a pas été remise en cause, sauf qu'en fait, quand on voit que la plupart des organisations syndicales et des, on va dire, des corporations depuis la SNCF, etc., ont renégocié tout ou partie de l'accord, on va payer pendant 15 ans ou 30 ans les FGO, quoi. Donc je pense que cette démarche-là, elle n'était pas ni saine, ni responsable. Là, il y a un caractère arrogant. Alors ça a été, effectivement, on aurait pu prendre ça une maladresse si on avait dit, on va faire un décret, mais ce n'est pas un décret.
Il y a une maladresse surtout par rapport au hier, où Emmanuel Macron disait, éventuellement, on pourrait rediscuter des modalités avec
le 8 juillet, enfin,
des députés socialistes qui, avec de la droite républicaine éventuellement.
Juste une précision, pardon encore, c'est qu'Antoine Fouché qui nous a dit ça à l'instant, donc qui était au cabinet de Muriel Pénicaud, qui connaît très bien ces dossiers-là, il disait, en fait, ça va rentrer en vigueur qu'au 1er décembre.
En décembre,
donc d'ici là, on peut faire tous les aménagements possibles.
Oui, mais on est d'accord.
Il y a un côté technique,
C'est technique, mais le problème, c'est surtout la provocation que ça envoie. En ce moment, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de ça? Non, le décret de prolongation, ils n'avaient pas le choix. Le décret qui amplifie la réforme, ça, c'était une vraie question.
De toute façon, ça va impacter des populations qui sont perdues, pardon de le dire comme ça, pour la cause macronienne, qui n'auraient pas voté pour Emmanuel Macron. Là, est-ce qu'on n'est pas allé un petit peu dragué sur les terres des républicains, de la droite républicaine, pour ramasser? En disant, on maintient le cap, précisément. On maintient notre cap.
Samuel, c'est la volonté que Emmanuel Macron a laissé transparaître sur sa conférence de presse et sur les derniers jours. Je suis imperturbable, je continue ce que j'ai à faire. Après, au-delà du volet technique qui est à prendre en compte, mais si on en sort deux secondes, le timing est dévastateur parce que ça arrive entre deux tours, ça pourrait potentiellement annihiler une bonne dynamique à laquelle je ne crois pas, de La République En Marche, et les plomber pour le second tour. Il y a la volonté, comme je disais, d'apparaître imperturbable, les syndicats qui sont en ordre de marche, et à l'instant T, le sujet, il apparaît comme secondaire, voire même tertiaire, parce qu'on est tellement dans les querelles d'appareil, dans l'urgence d'une législative, aujourd'hui, on est dans une séquence où tout va très vite. Mmh. Hier, c'est les Républicains qui étaient ridicules. Aujourd'hui, c'est la gauche qui est en train de s'écharper. Et va savoir ce qui va encore se passer sur les prochains jours, jusqu'à dimanche et au dépôt des listes. Donc, cette situation-là, ce sujet-là, il est traité d'un point de vue économique, mais je pense pas que dans l'opinion publique ça ait une grosse répercussion. C'est pas ça leur priorité aujourd'hui. C'est de savoir ce qui les attend dans 3 semaines, à quelle sauce ils vont être mangés, parce qu'il y a un risque d'extrême de part et d'autre. Et puis surtout, il y a eu aussi une autre déclaration, mais à laquelle, sur laquelle on reviendra plus tard, celle de Jordan Bardella, qui nous annonce que lui ne reviendra pas sur la réforme des retraites.
Alors, il va regarder l'état du pays, des finances publiques, et
l'audit.
Ensuite il prendra, il fera un audit, et après il prendra une décision. Donc, non mais il faut pas. Là vous avez raison.
Là où je vais me risquer, c'est que je vous mets une pièce et ma main à couper.
Qui va
ne reviendra pas là-dessus.
Peut-être.
Parce que c'est une réforme qui est certes impopulaire, mais qu'à peu près tous les partis de droite rêvaient de mettre en place, et ils ne l'ont pas fait. Macron l'a fait. On est pour, on est contre, ça c'est autre chose. Mais aujourd'hui en l'état, j'imagine mal un parti, à part Mélenchon et même lui, revenir sur cette réforme.
Là aussi, il y a un flou absolument magistral. Vous en parliez avec Antoine Fouché sur l'avenir de cette réforme des retraites.
Il y a un flou magistral, mais là, encore une fois, vous avez raison.
Et à l'intérieur du gouvernement.
Il y a des faits, il y a une réalité, il y a un problème démographique en France très important. Il y a la question de l'immigration, 70 000 immigrations nettes. Donc, si jamais en plus vous voulez supprimer de l'immigration, on ne sait pas comment il pourra faire pour, sur la réforme des retraites. Donc, il y a beaucoup d'équations politiques un peu inconnues, mais par contre, il y a des équations économiques et elles sont connues.
Je vous rappelle ce que disait l'Institut Montaigne en 2022 quand il chiffrait la proposition de Marine Le Pen. Au cas où nous reviendrions, ne serait-ce qu'à 62 ans, voire 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler avant 18 ans, on était sur une facture aux alentours de 30 milliards d'euros par an supplémentaires. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut aussi clarifier cette situation très très vite pour vous, finalement, Alexandre? Alors,
je pense qu'ils vont trouver des arguments et des éléments de langage qui vont leur permettre de tenir. Il y aura beaucoup de pression, mais un certain nombre de façons de prolonger le suspense jusqu'au moment où ils seront vraiment aux affaires.
Oui.
Je pense qu'en fait, ce qu'ils vont chercher à se mettre dans la position de « on va vous protéger, mais on ne fera pas n'importe quoi ». C'est-à-dire, typiquement, là pour le coup, sur l'assurance chômage,
oui.
Si effectivement Gabriel Attal confirme son intention de passer un décret, Jordan Bardella aura beau jeu de dire « moi, j'arrive aux affaires, je vous protégerai, chers Français, je le supprime, on le reverra ». Donc voilà, sur la réforme des retraites, je pense qu'ils se rendent compte maintenant qu'ils sont un peu acculés, arrivés au seuil du pouvoir, qu'il y a un vrai sujet. Mais ça va leur donner du grain à moudre. C'est-à-dire qu'en fait, on va tout de suite basculer très rapidement dans des procès en sorcellerie.
Oui.
Où on va dire, voilà, nous, on avait vraiment l'intention d'eux, mais on a découvert des comptes qui sont dans un état lamentable, encore plus lamentable que ce qu'on avait pu imaginer. Donc on va accabler, effectivement, et là, on va faire le coup du bilan, qui risque effectivement de durer suffisamment longtemps pour que ça permette de passer à autre chose. Et après, peut-être de trouver une autre manière. Après, il y a peut-être des sujets sur lesquels ils vont lâcher un peu de l'aise. Typiquement, il y avait le cas des jeunes de ceux qui ont entre 18 et 20 ans et qui, eux, vont avoir une année de plus à travailler. Donc là, la mesure est beaucoup moins chère que de baisser tout le monde. Peut-être qu'ils feront un petit effort pour prendre en compte cela. Il y a peut-être un moyen de faire un ajustement qui permettra de faire du social sans que ce soit trop cher.
D'ailleurs, je ne sais pas où j'entendais quelqu'un qui disait « quand on commence à parler d'audit en général
»,
c'est quoi? On se prépare déjà devant l'urgence de la situation qu'on n'avait pas correctement évaluée à mettre de côté certaines de ses propositions de campagne, finalement.
Le
RN commence à nous parler d'audit
d'ores et déjà aujourd'hui. Voilà, c'est ça, oui.
C'est sûr.
C'est ça qui est.
La quête du pouvoir, là, en plus, comme le timing est extrêmement serré, donc on va être vraiment dans des traits très schématiques, très forts, des slogans, et donc ça va être assez brutal comme campagne.
Un mot des marchés. Je voudrais qu'on regarde, si vous nous regardez à la télévision, le niveau du taux à 10 ans français ce soir, qui est à 3,15, qui a monté de quelques points aujourd'hui, qui était à 3,20 tout à l'heure. Et il se trouve que le Bund allemand, lui, s'est un petit peu desserré. Vous avez le fameux spread, vous savez, l'écart de taux franco-allemand dont on parle si souvent, qui est monté ce soir à 70 points. Avant, l'annonce de la dissolution était à 48 points. Donc il se passe quand même quelque chose sur les marchés, véritablement. Là, on commence à regarder ça de très très près.
Il y a une situation
On plonge dans une situation, allez-y,
enfin, non, mais je vous en prie.
On plonge dans une situation qui est aussi proche de l'inconnu que celle qu'on a connue quand on était au premier jour du Covid.
C'est-à-dire
que tout d'un coup, on a confiné la France pour une durée indéterminée. Souvenons-nous de l'époque, c'était assez vertigineux, tout s'arrêtait, mode de travail totalement dégradé, activité en panne, beaucoup de problématiques. Voilà. On est un peu dans le même schéma, c'est-à-dire que là, on a une inconnue phénoménale, on ne sait pas s'il y aura un gouvernement, on ne sait pas s'il y aura une majorité, s'il y aura une majorité relative, est-ce qu'on peut tenir avec une majorité relative avec X au pouvoir. S'il n'y a pas de majorité, parce qu'il y a 3/3 équilibré, qu'est-ce qu'on fait? On fait un an ce qu'on peut pour sauver les meubles et puis on refait des législatives.
Puisqu'on ne peut pas dissoudre pendant un an.
Exactement. En plus, on se retrouve avec l'Union européenne européenne qui va avoir une France absente, ce qui pose la construction européenne, même pas en parlant d'élargissement, mais la construction va être en panne. Donc, je veux dire, c'est une situation qui est forcément anxiogène pour les marchés. Ça peut se décanter très vite ou pas.
Edwige,
ça peut se décanter très vite. Alors là, si vous avez la solution, moi je la veux bien. Et à mon avis, il y en a d'autres qui voudront bien avoir la solution, notamment Emmanuel Macron, parce que c'est pas du tout évident d'avoir une solution. Il y aura plusieurs solutions et que et pour l'instant, elle se dessine pas vraiment parce que si on regarde les sondages, alors les sondages ne sont que des sondages, mais enfin ils se sont avérés relativement exacts en tous les cas pour les résultats des élections européennes. Et là, on voit que personne n'a la majorité. Et même si vous essayez de faire un jeu de binto entre les Républicains. Renaissance, une partie du PS, ça ne passe pas, ça passe nulle part en fait.
Ça passe nulle part, ouais. Ça, je suis d'accord. Samuel, je suis pas d'accord, c'est qu'aujourd'hui, accorder un œil attentif au sondage, c'est une erreur. On n'a aucune idée de ce que sera le découpage, la répartition des candidats sur les 577 circonscriptions, qui aura qui en face de lui, comment va s'en sortir le bloc de gauche sur ces répartitions et qu'est-ce qu'ils vont envoyer. Est-ce que le Parti Socialiste sera majoritaire? Est-ce que ce sera la France Insoumise? Comment va s'en sortir les écologistes? La droite, on est encore dans le fouillis. Donc aujourd'hui, je trouve ça très dangereux d'accorder une attention soutenue à ces sondages. C'est un indicateur, on peut les regarder vite fait, mais...
Comment est faite la vie politique?
Elle est faite de ça, mais aujourd'hui, on est sur une législative et il faut faire comprendre aux gens une chose. On ne va pas voter comme un seul homme pour un parti, on va voter chacun en notre état, dans notre circonscription, pour un candidat. Moi, à titre personnel, j'habite à Boulogne. Bon, Boulogne, c'est globalement de droite. Peu importe mes convictions, la question ne va pas se poser. Vous avez des circonscriptions où le jeu va être beaucoup plus ouvert. Il y a encore 3 semaines de campagne qui vont arriver. Pour moi, la campagne n'a pas encore commencé.
Et les investisseurs qui
on
sont pas encore...
On est dans les tractations et c'est lundi prochain que ça va jouer.
La difficulté, c'est de savoir s'il y aura un vrai choc psychologique. En tout cas, c'est là-dessus que parie le président de la République lorsqu'il a annoncé cette dissolution. C'est que de dire que les gens vont se rendre compte en fait de ce vote. Le vote qu'ils ont fait, du bulletin qu'ils ont mis dans l'urne pour l'élection européenne, et que là, on est dans une logique très différente, une logique institutionnelle très différente, parce qu'on a 2 tours, vous avez raison, c'est des circonscriptions, c'est quand même souvent quelqu'un que je connais, enfin mon député, on le connaît, ou on le connaît de loin, mais enfin, quand même, il y a une personnalisation, et que là, ça peut jouer, puis en plus, il y aura des désistements. A priori, en tous les cas, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron.
Alexandre,
regardez dans les...
Ce serait...
Alexandre Malafaille.
Tout est toujours possible, mais ce serait quand même très surprenant, même si les européennes ne sont pas une présidentielle, ce serait très étonnant que les Français se déjugent en 3 semaines. C'est-à-dire que les tendances actuelles... Alors après, on est sur une mécanique à 2 tours, ce scrutin uninominal, donc ça peut bien sûr jouer. Il y a bien sûr des alliances qui ne sont pas encore cadrées, il y a le Front Républicain qui s'organise, est-ce que les messages passeront, voilà. Mais en parallèle de ça, vous avez une autre inconnue, qui est comment le pays va vivre en sécurité jusqu'au 7 juillet. Oui. On annonce déjà entre 50 et 100 000 personnes ce week-end à Paris pour manifester, on voit bien qu'il y a déjà des troubles dans un centre de quartier, dans certaines villes, voilà, comment on tient.
Avec la collusion ensuite des Jeux Olympiques.
Faut j'ai envie de dire comment vont se passer les Jeux Olympiques.
On aura voté.
Oui, on aura voté, mais qu'est-ce qui se passe derrière
juillet, si vous voulez, plus ça va être dégradé en termes d'ordre public, plus ça va, si je puis dire, accréditer l'arrivée aux affaires ou l'envie d'arriver aux affaires de gens qui sont capables de rétablir l'ordre et qui vont en plus avoir le discours martial qui va bien.
Non, de ce point de vue-là, je suis d'accord avec vous. Maintenant, on ne voit pas très bien. On ne voit pas l'issue pour en revenir à la question des marchés que vous souleviez au départ, Guillaume. On ne voit pas très bien qu'est-ce qui pourrait rassurer les agences de notation et rassurer en tous les cas les marchés, du moins dans un premier temps. Il faudra attendre, à mon avis, la fin de l'année.
Ouais, écoutez quand même, l'économiste Philippe de Sertine qui était ce matin sur BFM Business, il disait, quand on commence à parler d'audit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand on commence à parler d'audit comme le fait le Rassemblement National, c'est qu'on sait déjà qu'on va mettre entre parenthèses certaines propositions de campagne. Écoutez ce qu'il nous disait ce matin.
Si c'était la majorité actuelle, on dira la situation s'est encore dégradée, et notamment parce que pendant tout le mois de juin, il n'y a plus de business. Au passage, notre PIB ne va pas s'améliorer puisqu'on a eu les grands ponts de mai, on va avoir maintenant la période électorale de juin, puis l'incertitude politique probablement en juillet-août, ce ne sera pas bon pour la croissance en général. Mais donc on dira, c'est pas possible, et donc effectivement, tous les électeurs qui vont avoir voté pour, on dira, ah oui, mais en fait... On n'avait pas prévu. Personne n'avait vu. C'est grand, vous savez, c'est les grands refrains qu'on entend souvent. Un, faut pas exagérer, c'est à peu près ce qui s'est passé depuis 2 jours. 2, personne n'a vu venir. Puis 3, on fait un audit et là, on se rend compte que non, ça va pas du tout. D'ailleurs, entre parenthèses, le Rassemblement National a déjà commencé sur cette voie en disant, on va faire un audit et on verra. Donc ça veut dire, effectivement, l'électeur doit bien comprendre que l'audit... on sait à peu près ce qu'il va dire. Hein. Il suffit juste de relire les rapports de la Cour des comptes il y a peu de temps. Vous l'avez, l'audit. Mais on le fera après les élections. Ça permet effectivement, dans la période électorale, on va dire, de promettre un peu tout et son contraire.
Voilà. Est-ce que ça doit apaiser un petit peu nos inquiétudes, ce que dit Philippe Dessertine, puisque on connaît l'histoire, finalement.
Moi, ce que j'aimerais bien...
Ça nous fait penser à Meloni, tout ça, en Italie. Voilà,
moi, c'est ce que j'allais dire. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est être une petite souris actuellement au G7 pour voir qu'est-ce qu'ils se disent. Hein, G7 dans les pouilles. En plus, quand on voit, c'était petit clin d'œil médiatique, mais lorsqu'on voit Emmanuel Macron en train d'embrasser Giorgia Meloni, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il se dit dans sa tête.
Il doit être en observation, là, je pense, effectivement.
Oui, il doit regarder, ou peut-être qu'il lui pose des questions, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je dois faire. Enfin, en tous les cas, et puis on se demande qu'est-ce qui va se passer dans ce G7, parce que tout le monde... Ils sont tous dans des situations politiques difficiles.
La question qu'on se pose, effectivement, est-ce que vous prévoyez plus ? Alors, c'est évidemment une question sans réponse que je vous pose, mais est-ce que vous croyez plus, si d'aventure le RN arrive au pouvoir dans 3 semaines, dans les prochains mois, un scénario à la Giulia Meloni, qui a su donner des gages au marché, ou un scénario à la Liz Truss, pour se rappeler ce qui s'est passé il y a 18 mois en Grande-Bretagne, où elle a été emportée en quelques semaines par la bourrasque des marchés ?
Je pense qu'ils ont la chance d'être en fait à l'Assemblée nationale depuis déjà 2 ans. Avec 89 députés, tout le monde dit qu'ils se sont formés, ils ont beaucoup observé, ils se sont préparés aussi parce qu'ils voient bien qu'il y a une tendance qui là devient plus favorable. Ils étaient peut-être pas prêts tout de suite là maintenant, mais en tout cas il y a un travail de fond qui est fait. Et puis ils ont les deux modèles à observer. Ils ont vu Liz Truss. Ils ont vu effectivement, bon, elle avait un programme qui était plus...
Oui, parce qu'elle, c'était son programme qui était complètement dingue, quoi. Pardonnez-moi cette
expression. Puis, c'était pour le coup, c'était pas ultra-social. Il y a quand même des cadeaux à certaines classes particulières. Voilà. Puis elle a fait plein de bêtises, puis elle a sauté. Ils ont bien vu qu'il fallait pas aller trop vers cette direction-là. Ils voient la réalité de nos comptes, et maintenant ils les voient d'assez près compte tenu de leur position à l'Assemblée. Ils sont comme dans toutes les commissions, y compris la commission des finances. Et puis ils voient le cas Meloni, qui a réussi finalement, après une phase d'inquiétude, à rétablir une forme d'ordre, et en même temps à faire globalement ce qui... Voilà. Oui. Donc il est possible qu'ils arrivent à trouver cette voie. Il y aura peut-être un petit creux, ce qui sera naturel une fois qu'ils seront aux affaires s'ils y arrivent. Le vrai sujet pour moi, c'est plutôt dans le premier mois qui suit leur élection, c'est la sécurité
c'est
de notre pays
gouvernement.
En matière de sécurité publique, sécurité civile, sécurité pendant les JO. Là, il y a un enjeu qui est majeur. Mais une fois qu'on aura passé ça...
Moi, c'est quel gouvernement hein.
Alors,
c'est
ça la question. Justement, le point de vue abordé. Cette collusion là, des événements, vous ne savez pas ce qui va se passer après le Sénat.
Ben voilà, il n'y a rien qui nous certifie, même en cas de majorité relative, parce que je pense qu'on sera beaucoup plus sur une majorité relative pour le RN, qu'Emmanuel Macron convoque un Premier ministre du Rassemblement National. C'est absolument pas garanti. Derrière, moi, j'observe, je vois que le RN, il a changé de braquet sur ses éléments de langage depuis 2-3 jours. On est passé sur, alors, faute d'autres termes, quelque chose d'un peu plus responsable, un peu plus... crédible, essayer de ne pas être dans la surpromesse. Et derrière, est-ce qu'ils pourront réellement appliquer leur politique avec le contexte que l'on connaît ? Est-ce que ça va pas plutôt être un passe-plat et une continuité de la politique d'Emmanuel Macron ? On a la question, comme vous l'avez dit, des entreprises et du CAC 40 qui sont sous pression. Voilà. Je doute qu'ils puissent réellement les rassurer. Et on a parlé d'effet Meloni ou Truss. On pourrait parler aussi d'effet Milei ou d'effet Trump. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe en Argentine. J'ai la faiblesse de penser que si RN majoritaire, on pourrait assister à des scènes d'insurrection en France, parce que ça ne passera pas, ce n'est pas forcément dans notre culture. Et j'imagine mal un exercice apaisé du pouvoir de la part de ce parti-là.
Edwige,
normalement. Paraît-il que le président argentin, il a une sœur qui est cartomancienne qui lui tire les cartes à chaque fois qu'il doit prendre une décision.
Ah, ben voyez.
Ça pourrait être le cas. Non, plus sérieusement, on est de. Moi, surtout, c'est qu'on ne voit pas majorité relative. Qui au gouvernement ? Parce que si vous avez un Jordan Bardella, ça ne peut pas être un gouvernement uniquement du Rassemblement National. Donc qui va accepter d'aller au gouvernement avec comme premier ministre Bardella ? Pas du tout évident. Hein.
Mais c'est surtout que même selon les conditions, il est possible que Bardella lui-même dise non.
Oui, puis il n'est pas encore.
Je ne vais pas aller me tirer une balle dans le pied. Donc c'est compliqué. Après, sur les accords de gouvernement, je suis sûr que côté LR Transfuge, il en trouvera quelques-uns
qui accepteraient
avec plaisir de prendre
le
poste de ministère de l'Intérieur.
Enfin, quand bien même nos taux d'intérêt continueraient à grimper, ce qui serait insupportable évidemment assez rapidement. Bon, il y a toujours... Tout le monde se dit depuis des années, de toute façon, la Banque Centrale Européenne sera là. Ouais. En dernier prêteur, si crise il devait y avoir. Le raisonnement, c'est pas nouveau. Ce qu'on appelle l'aléa moral, ça fait des années que ça tourne, ça, malheureusement.
Oui, et puis la France reste un pays quand même qui est
solvable. Qui a une meilleure signature.
Qui s'est élevé l'impôt. Voilà.
Dans tous les cas, il y a encore un peu de patrimoine dans le pays, donc il y a toujours des garanties qu'on peut toujours mettre sur la table, le cas échéant. Mais je crois qu'en fait, le vrai sujet, c'est ce qu'on disait, d'abord, c'est l'inconnu sur le comment on gouverne ce pays à partir du 7 juillet, et puis dans quel état on traverse l'été. Voilà, ça, c'est les deux très grosses inconnues. Une fois que, globalement, imaginons qu'ils arrivent aux affaires avec une majorité absolue, absolue, une majorité d'alliance. Voilà, à un moment donné, ils trouveront un chemin. Et après, ils seront pragmatiques. Vous savez, quand on regarde également, on critique beaucoup toujours les extrêmes, mais quand on les voit arriver aux affaires, alors tous les cas ne sont pas dans cette situation, mais prenez Trump aux États-Unis, oui. Finalement, c'était good for business. Hein.
Oui. Bien sûr.
Voilà. Et aujourd'hui, vous avez quand même un certain nombre de
oui, mais lui, était un
courant,
homme d'affaires.
De courant économique. Oui, mais...
Donc, le business, il connaissait bien, quoi.
Je suis d'accord, mais là encore, je crois que... Enfin, le procès en diabolisation économique, à mon avis, est un procès qui, d'abord, qui agite un peu les peurs. Je pense qu'il n'est pas sain. Et je pense qu'ils seront rattrapés par la réalité. Pas, voilà. Ouais. Ça, c'est de toute façon... Les marges de manœuvre... C'est peut-être aussi pour ça qu'Emmanuel Macron, finalement, il lâche les clés du camion, dit je les donne au premier venu, entre guillemets, au premier venu, parce que de toute façon, les marges de manœuvre, y compris pour Emmanuel Macron, sont très difficiles.
Oui.
Mélanie, elle s'est engagée sur une voie d'austérité. Aujourd'hui, la seule politique qui serait un peu raisonnable, c'est plus une ligne d'austérité qu'une ligne de j'ouvre les vannes. Donc, aujourd'hui, Emmanuel Macron, on n'est pas en situation de pouvoir le faire. Oui. Donc, à un moment donné, il lâche le truc. Hein.
Oui, quand même, faut quand même réaliser qu'il y a encore très peu de temps, Marine Le Pen était pour la sortie de l'euro, elle était pour la sortie de l'Europe, elle était pour le Frexit. Donc, comme vous dites, là, il y a eu un principe de réalité, il s'est rendu compte que c'était pas possible. Oui. Avec, vous savez, sa monnaie qu'elle voulait,
qui fluait,
tous les culs. Donc, un principe de réalité, c'est des gens sans doute intelligents, mais enfin, quand même, ils ne connaissent pas beaucoup l'économie.
Comme bon, passons déjà le mois de juillet, le mois d'août.
C'est sûr que la rentrée sera meilleure.
Non, effectivement. Bien, c'est terminé pour cette première partie des experts. Merci beaucoup, Alexandre Samuel. Vous revenez dans un quart d'heure avec nous.
Avec plaisir.
On accueillera d'autres experts. Edwige, on se retrouve lundi prochain.
Lundi, ça sera, puisqu'on passe à l'assurance chômage et de retraite, ça sera Frédéric Souillot, patron de Force Ouvrière. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas entendu. Personnage clé dans le climat social actuel, et puis au lendemain de manifestations.
Absolument.
Visiblement assez avec beaucoup de monde dans la rue.
Il aura des choses à nous dire. Merci beaucoup. À lundi, 18h57. Nous, on revient dans un instant, le journal, et puis nos experts qui reviennent. Ils seront quatre ce soir, ça promet. Des débats ardus. On se retrouve dans deux petites minutes. À tout de suite.
BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business.
Il est un peu plus de 19h, on est de retour. C'est la deuxième heure de Good Evening Business en direct jusqu'à 20h. Dans l'actualité ce soir, alors vous connaissez le proverbe, quand je me compare, je me console, etc. etc. Emmanuel Macron, qui vient d'arriver au G7 en Italie, va se retrouver avec ses homologues qui sont tous dans une panade électorale absolument considérable. Ça vaut ce que ça vaut, mais on va aller sur place, bien sûr, dans un instant. On va parler de la réforme de l'assurance chômage ce soir parce que Gabriel Attal a mis les choses au clair ce matin. La réforme entrera en vigueur comme prévu et dans les conditions prévues. Déception des syndicats qui avaient cru percevoir une petite ouverture hier de la part d'Emmanuel Macron. Les marchés, journée encore difficile, paraît qu'il perd 2%, le taux d'emprunt français qui remonte. D'ailleurs, c'est une question qu'on posera ce soir à nos experts qui arrivent dans un quart d'heure. Est-ce qu'en cas de victoire du Rassemblement National, vous voyez plus un scénario à la Meloni, à l'italienne, où on donne des gages au marché, ou à la Liz Truss, il y a 18 mois en Grande-Bretagne, où on avait déchaîné ces mêmes marchés? On posera la question à nos experts à partir de 19h15. Voilà le programme. On est ensemble jusqu'à 20h. Très bonne soirée.
Votre rendez-vous avec Revolut Business, la banque en ligne qui simplifie vos transactions internationales et dépenses d'entreprise.
Good Evening Business, le journal.
Donc, je vous le disais, journée très très difficile sur les marchés. La Bourse de Paris qui perd notamment 2% ce soir. Bonsoir Étienne Braque.
Bonsoir Guillaume.
Pire baisse depuis juillet dernier. Dans le contexte actuel, c'est pas anodin, Étienne.
Oui, très clairement. Surtout qu'on a une baisse qui s'est amplifiée à l'ouverture de Wall Street. Les Américains se sont réveillés, ont vu que le contexte en Europe est clairement très compliqué à lire et il est très compliqué de faire des prévisions sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Donc, suite à cela, vous avez un CAC 40 qui s'est enfoncé. On se retrouve à 7700 points ce soir, quasiment 3,7% de baisse depuis lundi. C'est pas anodin. Pour rappel, on était à 8002 au printemps. Donc là, on a perdu 500 points en ligne droite. Plus que 2% de gains désormais depuis le 1er janvier. Dans un instant, Mathieu Coage va nous en parler. Un G7 où en fait tous les dirigeants sont quand même fragilisés. Donc vous imaginez bien que les Américains n'ont clairement pas envie d'acheter des actions européennes en ce moment. Surtout que les Apple et compagnie sont sur des plus hauts historiques. Jerome Powell hier qui n'annonce qu'une seule baisse de taux cette année. Donc ça aussi, ça fragilise les marchés. Donc suite à cela, vous avez une prime de risque qui se se met en place, que ce soit sur le marché action, sur le marché obligataire. Un spread, donc un écart de taux entre le 10 ans français et le 10 ans allemand qui se retrouve sur des plus hauts de 2017.
Quasiment 70 points.
Voilà c'est ça, donc ouais. C'est assez notable. Il n'y a pas de mouvement de panique, hein, il faut vraiment le dire. Mais le marché prend acte en fait de toutes ces primes de risque, de tous ces risques, et donc il met un prix par rapport à ces risques. Et donc suite à cela, vous avez un CAC 40 qui subit aujourd'hui sa plus forte baisse depuis juillet l'année dernière.
Merci beaucoup Étienne. Bah, effectivement, oui, ça a peut-être consolé un petit peu Emmanuel Macron de ses malheurs. Il vient d'arriver au G7 dans les Pouilles en Italie. G7 dont tous les invités dont il fait partie, effectivement, sont dans une panade électorale absolument considérable. Ce leur hôte, en fait, Giulia Meloni, va très très bien. Mathieu Couache est sur place pour BFM Business.
Emmanuel Macron arrive affaibli à ce sommet du G7, mais pas plus que les autres dirigeants des pays les plus riches de la planète. En fait, on n'avait jamais vu un sommet du G7 avec des leaders dans des positions aussi difficiles dans leurs pays respectifs, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Canada, au Japon et bien sûr aux États-Unis. Des crises politiques partout. Ce sont six canards boiteux, comme on dit aux États-Unis, des chefs d'État et de gouvernement qui n'ont plus la même force politique qu'avant, qui se retrouvent dans les Pouilles en Italie pour 2 jours. Et ils sont reçus par une femme qui, elle, va très bien. Et c'est un hasard du calendrier qu'elle préside ce G7. C'est bien sûr Giorgia Meloni, représentante de l'extrême droite européenne. Elle a l'ambition de mener la danse pendant ce sommet face à ces 6 hommes affaiblis. Elle veut d'ailleurs pousser ses positions sur l'immigration, sur le soutien à l'Ukraine qu'elle souhaite plus important. Et elle essaie même de faire disparaître du communiqué final l'idée d'un accès garanti à l'avortement pour les femmes des pays du G7.
Mathieu Couache, donc, en Italie pour BFM Business, 19h06. Pendant ce temps, en France, la campagne législative continue. Avec donc cette mise au point de Gabriel Attal sur l'assurance chômage, la réforme entrera bien en vigueur et telle qu'elle a été présentée, les syndicats qui avaient cru déceler une petite ouverture hier dans les propos d'Emmanuel Macron, les syndicats sont littéralement furieux aujourd'hui. Caroline Morisseau.
Gabriel Attal ferme très clairement la porte aux syndicats. Pour lui, pas question de faire marche arrière. La réforme sera mise en œuvre telle qu'elle a été annoncée. Le décret sera bien publié comme prévu d'ici le 1er juillet. Reste à savoir si cette position sera tenable. Derrière, les syndicats font monter la pression. Ils ont de nouveaux chiffres à faire valoir. L'UNEDIC vient de leur remettre une étude qui permet de mesurer l'impact de cette réforme. Elle va certes générer d'importantes économies, jusqu'à 5,4 milliards d'euros par an en rythme de croisière, un montant nettement supérieur aux 3,6 milliards d'euros annoncés par le gouvernement. Et encore, c'est sans compter la nouvelle baisse de la durée d'indemnisation qui pourrait intervenir si le chômage tombait sous les 6,5%. Mais cette réforme aura aussi de lourdes conséquences sur les futurs chômeurs, puisque toujours selon l'UNEDIC, plus d'un allocataire sur deux sera concerné, soit par la baisse de la durée d'indemnisation, soit par le durcissement des conditions d'ouverture des droits, mesure qui touchera plus particulièrement les jeunes et les plus précaires qui enchaînent des contrats courts.
Caroline Morisseau, autre réforme dont l'avenir là est très incertain puisqu'elle n'est pas censée passer par décret, c'est celle de l'agriculture. Le ministre ne veut pas donner l'impression qu'il abandonne la profession en pleine campagne électorale. Il y a donc eu encore une grosse réunion ce matin à Paris. Pauline Tadva.
La réunion au ministère était plutôt technique, un point sur l'avancée des mesures de simplification promises par le gouvernement après les manifestations. D'après un participant, il n'a pas été franchement question des incertitudes provoquées par la dissolution. C'est pourtant au cœur des inquiétudes du secteur. Le patron du principal syndicat agricole, la FNSEA, appelle l'exécutif à aller au bout de ses engagements d'ici le 7 juillet sur Egalim ou sur les produits phytosanitaires. Il appelle aussi l'ensemble des candidats aux élections à intégrer dans leur feuille de route leurs revendications en termes de revenus ou de simplification. Ni défiance ni complaisance, dit-il, le monde agricole veut des solutions. Il se montre quand même sceptique sur certaines propositions du RN qui veut renationaliser la PAC ou sortir des accords de libre-échange. Il critique la coordination rurale qui s'est dit, comme Jordan Bardella, favorable à l'exception agriculturelle. Du côté de la Confédération paysanne classée à gauche, on défend un projet progressiste et social en totale opposition, nous dit-on, avec les propositions agricoles du Rassemblement national.
Pauline Tadevin, dans l'actualité des entreprises, forcément, sa parole était très attendue. Le patron de Stellantis, Carlos Tavares, a commenté tout à l'heure, vous savez, la décision de Bruxelles hier de surtaxer à l'importation les voitures électriques chinoises. Il l'a fait depuis Détroit, à l'occasion d'une journée investisseur, où il a aussi commenté, au passage, le petit coup de mou que traverse Stellantis depuis un petit moment. Justine Vassogne est à Détroit pour BFM Business.
Oui, car l'étoile de Stellantis, le champion de la performance, a quelque peu pâli ces derniers mois avec notamment un mauvais premier trimestre et des ventes en recul de 10%. Stellantis a confirmé aujourd'hui que son premier semestre serait moins bon qu'il y a un an, avec une marge entre 10 à 11% contre plus de 14% en 2023. Mais le constructeur compte sur un bon second semestre pour rebondir. Carlos Tavares ne semblait pas inquiet. Nous allons vous montrer la puissance de Stellantis, a-t-il dit à ses investisseurs, une puissance nécessaire dans un monde de plus en plus fragmenté. Carlos Tavares est revenu sur l'augmentation des droits de douane en Europe pour les voitures chinoises. Nous n'avons pas attendu cette décision pour agir. Le constructeur vient de nouer un partenariat avec le chinois Leap Motors pour exporter ses voitures électriques en Europe. Certaines de ces voitures seront produites en Europe dans les usines de Stellantis. Une décision prise avant le verdict de Bruxelles, a assuré Carlos Tavares. Le patron de Stellantis s'est aussi félicité de la stratégie multi-énergie de son groupe sur une même plateforme et dans une même usine. On peut produire des voitures électriques ou bien thermiques. Cela permet au groupe d'être agile, de ralentir ou d'accélérer son électrification dans un monde incertain et puis de s'adapter évidemment aux leaders politiques au pouvoir. Un mot tout de même sur la crise des airbags qui secoue le groupe aujourd'hui. Pas un mot justement de Carlos Tavares sur la question.
Justine Vassogne à Détroit, voilà pour les réactions de Stellantis. Et d'ailleurs, suite à cette décision de Bruxelles avec les voitures électriques chinoises, figurez-vous que les autorités chinoises ont fait savoir aujourd'hui qu'elles se réservaient le droit, je cite, de porter plainte devant l'Organisation mondiale du commerce. 19h10. On retourne sur les marchés. Je vous redonne la clôture à la Bourse de Paris. Donc, on en parlait avec Étienne. Moins 2% ce soir pour le CAC 40. Pire séance depuis juillet dernier. On est à 7708 points. Et pendant ce temps, Étienne, on enchaîne les records à Wall Street, comme d'habitude.
En effet, notamment sur le S&P 500 et sur l'indice Nasdaq, grâce à Apple. Depuis le début de la semaine, je me répète, mais quand même, le titre a gagné plus de 10% en l'espace de 3 séances. Ce n'est pas anodin. Et puis là, ce soir, vous avez une autre valeur qui prend le relais. C'est Tesla avec ce plan de rémunération. Rendez-vous compte, pas 56 millions, mais 56 milliards pour Elon Musk, qui a été validé par les actionnaires. Donc vous avez Tesla qui prend un peu plus de 3%, Nvidia plus 3% également, avec l'un de ses grands rivaux, Broadcom, qui a relevé à la hausse ses objectifs. La demande pour l'intelligence artificielle est toujours là. La valeur gagne un peu plus de 10% et donc ça porte Wall Street avec des records, notamment sur le Nasdaq et sur le S&P 500.
Merci beaucoup Étienne. 19h12, on revient dans un instant avec nos experts. On va parler de quoi? De la réforme des retraites, c'est flou. On va parler de la réforme de l'assurance chômage, là c'est plus clair. Et puis cette question évidemment sans réponse, en cas de victoire du Rassemblement National, est-ce que vous craignez plutôt un effet Liz Truss avec une bourrasque ou un effet Mélanie où on donne des gages aux marchés financiers quand même pour avancer? Tout ça plus d'autres choses évidemment jusqu'à 20h. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h15, on est reparti avec nos experts pour décrypter l'actu éco ensemble jusqu'à 20h, bien sûr, en direct. Samuel Botton, expert en communication, est revenu. Rebonsoir. Alexandre Malafaye est revenu. Rebonsoir, Alexandre, président fondateur de Sinopia. On attend Jean-Thomas Le Sueur, le directeur général de l'Institut Thomas More, victime des bouchons parisiens, mais qui va nous rejoindre dans un instant. Et puis, Franck Dedieu est avec nous également. Bonsoir, Franck. Bonsoir. Directeur adjoint de la rédaction de Marianne, dont je vous présente le dernier numéro qui est sorti aujourd'hui. On est le 13.
Absolument.
Ouais. Dissolution, les 8 pièges tendus aux Français. On peut en citer un ou deux notables.
L'idée du vote utile, l'impasse du No Passaran, les gros sabots du champ républicain.
C'est ça.
L'idée aussi de cette malédiction de Matignon qui est une sorte de piège, parce que l'idée de se dire on va faire rentrer le RN à l'Assemblée et même lui donner les clés de Matignon. Comme ça, il sera fatigué, usé, comme le veut la tradition. Et en 2027, tout rentrera dans l'ordre.
Et ça, c'est un piège pour vous?
C'est quand même...
C'est le scénario que tout le monde achète, à l'heure actuelle.
Il faut faire attention à ce genre de choses. C'est un peu risqué.
C'est pas forcément le bon scénario.
C'est un peu risqué.
Je sais pas, pas forcément.
C'est ce qui était dit précédemment, c'est-à-dire les éléments de langage qui vont être mis en place par le RN. Nous, on est arrêté d'une situation, on était dans une cohabitation, donnez-nous les clés complètement et vous verrez ce qu'on va faire. Je pense que c'est vers ça qu'on se dirige.
D'accord avec ça, Alexandre. C'est pas le scénario de viser effectivement l'essorage, l'essoufflement du RN qui va
parce qu'ils ont
très. Il y a le premier test du budget 2025. On en dira peut-être un mot tout à l'heure. Effectivement, la préparation du budget 2025 à l'automne qui va être une épreuve véritablement. Un chemin.
Ah mais ils ont quand même très très bien compris que le président de la République leur tend un piège.
Oui.
Ça n'échappe à personne. Tout le monde est à peu près d'accord. Alors, est-ce qu'il n'avait pas le choix? Est-ce qu'il avait le choix? Est-ce qu'il aurait pu faire autrement? Ça, c'est encore un autre débat.
Oui, mais ils ne misaient peut-être pas sur une dissolution là au printemps.
Alors, je pense qu'ils misaient pas là-dessus. Mais s'ils acceptent d'y aller, c'est qu'ils savent que ils ont 2 ans. Pour ne pas se planter s'ils veulent confirmer l'essai en 2027 et pas retourner dans l'opposition pendant encore 5 ou 10 ans. Et je pense qu'ils sont, on verra, mais ils sont capables d'inventer un chemin qui leur permettra entre d'un côté les procès en sorcellerie, c'est-à-dire le bilan, les audits, et puis le fait que pendant un an ils vont passer à dire regardez ce qu'ils ont fait avec une mise en accusation sérieuse et farouche de tous ceux qui n'ont pas bien fait le job, et ils vont trouver plein d'occasions de pouvoir le dire. Et puis après, un chemin où ils vont naviguer à vue pour effectivement lâcher un peu de lest et en même temps ne pas faire trop de vagues, et puis essayer de rassurer le maximum de partis prenante, et arrivé en 2027, dire, voyez, on a fait ce qu'on a pu, et en effet, on n'a pas cette prérogative, parce que le président a passé son temps à nous mettre des bâtons dans les roues, donnez-nous la totalité des clés et pas simplement le porte-clés, et on va y arriver.
Donc moralité, quitte à ne rien faire, il valait mieux pas dissoudre.
Oui.
Ah ben, il y avait une option.
Oui.
Il y avait une option qui aurait consisté à ce que le président de la République dise, bon, il y a un résultat, ça a été annoncé dans la presse, je ne sais pas si c'est pas Jean-Louis Bourlange qui en parlait aujourd'hui dans l'Opinion, il aurait pu suffire de mettre un Jean-Yves Le Drian à la tête de Matignon pendant 3-4 mois, histoire de fabriquer une espèce de coalition. Ça supposait que le président se mette vraiment en retrait, ce qui n'est pas son style,
oui.
Et puis qu'on essaie de trouver un nouveau chemin, et quitte à dissoudre, mais à l'automne. Mais là, en plus, maintenant, enfin, on évoquera ça tout à l'heure, mais en pleine période des JO,
absolument.
Ça crée un niveau d'incertitude. Rajouter au niveau de sécurité qui sont déjà tendus, qui est quand même assez, assez fascinant.
Bon, enfin, il n'a pas choisi votre chemin, non. Samuel, puisqu'il a bien dit.
En tout cas, ça fait des bonnes raisons de lire le prochain Marianne.
Absolument, et de ne pas tomber dans les pièges, et d'aller voter, et de lire le prochain Marianne, effectivement, qui est sorti aujourd'hui en kiosque. On voulait commencer sur l'assurance chômage. Vous avez entendu, Franck, notamment cette mise au point de Gabriel Attal ce matin qui dit bah non, on a cru cerner peut-être une petite ouverture d'Emmanuel Macron hier sur le sujet. Non, elle entrera bien en vigueur. 1er décembre, donc avec un décret d'ici le 1er juillet prochain, et selon les modalités qui ont été dévoilées il y a ça quelques semaines. On se posait la question de savoir si Emmanuel Macron n'avait pas fait un petit peu de clientélisme en disant on maintient le cap, Gabriel Attal aujourd'hui, justement, sur cette réforme de l'assurance chômage. Comment est-ce que vous regardez ça?
En fait, il y a peut-être Emmanuel Macron qui devient différent des macronistes. Emmanuel Macron n'est peut-être plus tout à fait macroniste. Ce que je veux dire, c'est qu'il a fait, vous l'avez très justement dit, il a évoqué le sujet en politique. Et il se retrouve avec, une technocratie, mais ce n'est pas simplement une technocratie, c'est un personnel politique qui, sur cet exemple-là, apporte l'illustration parfaite d'une déconnexion totale avec la réalité politique. Et tout amène à conclure cela. L'idée... quand même, de se dire, ça sera, je persiste et je signe. Il suffit quand même de pointer du doigt des chômeurs au moment où le Front National, le Rassemblement National, fait un carton auprès des populations les plus défavorisées.
Ce sont des personnes qui, de toute façon, ne voteraient pas pour lui, même s'il disait, il avait dit hier, on abandonne la réforme de l'assurance chômage.
Oui, mais si vous voulez, je ne suis pas si sûr. Et puis il y a cette idée de la contracyclicité. La contracyclicité, alors quand le taux est inférieur à 6,5%, vous avez un droit au chômage qui est différent que s'il est inférieur, etc. On est vraiment là, dans une situation, vous l'avez, mes co-débatteurs l'ont bien décrit, il y a quelque chose d'un peu dramatique. D'ailleurs, on peut imaginer que cette dramaturgie, Emmanuel Macron sait en jouer. Il y a une forme de dramaturgie où il est question de choc idéologique, de vision du monde, de hauteur, voilà, d'enjeux capitaux, et là, on va sortir une loi pour faire économiser 3,6 milliards d'euros.
Plus, vous avez vu les provisions de l'UNEDIC, ça peut aller jusqu'à 5,4 milliards.
D'accord, hein, 5,4 milliards si vous voulez, on parlait de 3,6 quand même au départ.
Oui.
Et compte tenu des circonstances historiques, on est en train de faire des arguties comptables sur des tableurs Excel, de dire contracyclicité en dessus. Vous voyez, ce sont deux mondes complètement différent, et je pense que la Macronie n'a pas pris la mesure du caractère, je dirais, exceptionnel de la situation politique. Mmh. C'est ce que ça démontre, selon moi. Je ne dis pas que cette... Alors, je pense personnellement que ce décret-là n'est pas favorable à la fois aux classes sociales les plus précaires, et donc même à l'économie en général, de façon générale. Mais au-delà de cela, il y a une sorte de fracturation, de symbolique absolue entre le drame historique et la technicité technocratique, oui, qui plombe depuis le début, je dirais, la majorité.
C'est pas cet aspect contracyclicité que le grand public a retenu le plus de cette réforme de l'assurance.
Ben oui, mais n'empêche que c'est ça qui est mis en avant.
Oui, Alexandre.
De toute façon, si Gabriel Attal publie cette réforme, enfin son décret qui appliquera cette réforme à l'occasion, à l'horizon de la fin de l'année, il donne un argument majeur à Jordan Bardella qui dira, si j'arrive aux affaires, moi je suspendrai le décret, on reprendra le temps de réfléchir, et moi je serai celui qui va vous protéger.
Ce qu'il ne dit pas pour l'instant. Hein.
Non, mais il va pas le dire parce qu'il attend que ce soit publié. Oui, là, c'est trop tôt pour le dire. Il faut que ça sorte.
Ça va tomber dans l'entre deux tours.
Pour le coup, il aurait aucun intérêt à ne pas en faire un argument pour dire on est là pour protéger les Français, redonner du pouvoir d'achat et puis ne pas stigmatiser. C'est pas dans leur programme initial. Puis le deuxième élément que ça révèle en complément de ce que vous disiez, c'est qu'en fait, on a vraiment affaire à des dirigeants qui ne comprennent pas les messages qu'on leur envoie. Et sur la méthode, qui est quand même la clé de tout l'échec, si je puis dire, de ces 7 années de gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est la méthode. Il y a plein de bonnes choses dans ce qu'il a voulu faire, mais c'est la manière de faire. Je ne dis pas que j'achète tout, moi je ne suis pas là pour entre guillemets faire un débat économique.
Alors qu'il a fait plusieurs mea culpa depuis toutes ces années.
Oui, mais ne tient pas compte des échecs de méthode. Il passe en force, il passe seul, il laisse de côté les partenaires sociaux, il méprise le dialogue social, il oublie les corps intermédiaires, il ne s'entoure pas comme il faut, et le résultat des courses, c'est que voilà, il fait moi je. Voilà, et ça ne passe plus. Et aujourd'hui, ceux qui vont arriver aux affaires auront intérêt à faire autrement. C'est un échec de gouvernance majeur. C'est ça l'une des clés de compréhension de ce qui s'est passé depuis ces ans, et même depuis au-delà, parce qu'il n'a pas remis en cause les process et les méthodes.
Samuel Botton.
Non, mais ce que disait Edwige, cette réforme, ce décret, ça relève du technique. Moi, ce qui m'inquiète plutôt pour lui, c'est de se dire que tout ça va intervenir dans l'entre-deux-tours, que oui, si par miracle il arrivait à sortir une bonne dynamique au lendemain du premier tour, ben celle-ci serait immédiatement inhalée. Moi, je vais être un peu plus ferme là-dessus, je pense que Jordan Bardella ne reviendra absolument pas sur le décret qui pourrait potentiellement passer. On restera dans le même wording. Bah, écoutez, c'est eux qui l'ont fait, nous maintenant on arrive, on fait table rase et puis on va mener les projets qu'on a à mener. Et surtout, non. Moi, j'ai la faiblesse de penser que c'est un sujet qui aujourd'hui est secondaire dans l'opinion publique. Il se passe beaucoup trop de choses. Sur les 3 derniers jours, on a un ressenti de 3 semaines.
Sur un chômage, qu'on voyait l'impact sur les demandeurs d'emploi de cette réforme de l'assurance chômage.
Aujourd'hui, pour la population qui est jetée dans une nouvelle élection qu'elle doit assumer en 3 semaines, c'est pas le sujet. Ce que fait Macron, les annonces qui sont faites et le gouvernement, j'ai la faiblesse de penser qu'ils sont déjà passés à autre chose et qu'ils se préparent pour le vote d'après. Et toutes les gesticulations qu'on pourra avoir dans les médias de la part des différents partis ou même du gouvernement, ça n'aura pas forcément d'impact.
Alexandre.
Sur la réforme des retraites, je suis d'accord, ils ont déjà commencé à botter en touche. Voilà, ou à reporter à plus tard. Oui. Mais là, sur ce sujet-là, je ne crois pas. Parce qu'en fait, ça va être très frais. C'est-à-dire qu'il y a 8 syndicats salariés qui sont aujourd'hui, ils n'en veulent pas de cette réforme. Voilà, donc,
ils sont furieux parce qu'il s'est passé entre hier et aujourd'hui, donc, il y a les syndicats.
Nécessairement, après le 7 juillet, imaginons que Jordan Bardella arrive aux affaires à Matignon. Dans les semaines qui vont venir, il va rencontrer bien sûr les syndicats qui vont tous mettre sur la table l'agenda social et la réforme des retraites et le demande de suspension. Et lui, pour démarrer ses relations dans de bonnes conditions, il va lâcher du lest là-dessus. C'est une bonne manière de dire ok, on va apprendre à dialoguer ensemble, il y a peut-être un truc à faire, mais on va se coucher, on va le faire ensemble.
Et ça lui coûtera 4 milliards.
Mais c'est 4 milliards devant. C'est pas 4 milliards, c'est pas comme s'il lâchait tout de suite.
Ce qui n'est pas énorme, en vérité. Ce qui n'est pas énorme, c'est que c'est vrai que...
Attendez, c'est de l'argent qui va, nous dit-on, à France Travail pour un meilleur accompagnement des chômeurs.
Commencer un mandat en se disant je fais un geste social en annulant le caractère antisocial du décret, et ça coûte 4 milliards, finalement, c'est lui donner une bonne occasion. Je suis assez d'accord avec Alexandre, c'est-à-dire que vous avez, dans cette persistance dans l'erreur, vous donnez un argument immédiat à la gauche, qui est de dire, regardez, c'est bien la preuve que c'est le gouvernement des riches, et puis vous donnez un argument secondaire, potentiellement, au RN. Donc je ne vois pas véritablement l'intérêt, sauf à se dire qu'il y a un vote des Républicains qui hésitera à voter RN et qui pourra se reporter au nom des grands équilibres sur le vote Macron. Mais ça ne fait pas beaucoup de monde, tout
et
ça.
Et puis, techniquement, les partis nationaux n'ont jamais été forcément fermés à tous les efforts et à toutes les réformes. C'est une question de dialogue entre les partenaires sociaux et le patronat. Si vous leur redonnez la main pour trouver un accord en fixant pas des règles qui empêchent pratiquement la conclusion d'un accord, peut-être qu'ils vont trouver un deal à horizon des 6 prochains mois, et à ce moment-là, peut-être permettre effectivement d'avoir un deal qui fera peut-être pas les 4 milliards promis, mais peut-être qu'il fera la moitié du chemin. Rien n'est jamais impossible. Mais il faut redonner en fait la main à un moment donné aux partenaires sociaux, c'est essentiel. La démocratie politique est une chose, la démocratie sociale en est une autre. Et on n'est qu'à une jambe aujourd'hui.
Deux minutes sur le 360 degrés des Républicains, le 180 degrés, on s'y perd, du Rassemblement National sur le dossier des retraites. Avant-hier, on nous dit « nous reviendrons sur cette réforme ». Et puis hier, Jordan Bardella, beaucoup plus prudent, qui dit « ça ne sera pas la priorité du moment ». Ça aussi, ça fait partie. On va parler un petit peu de la situation des marchés qui sont encore tendus depuis quelques jours, mais ça aussi, ça limite.
Mais c'est totalement lié au sujet sur les marchés. C'est-à-dire que vous avez un RN ou un FN de 2017 qui était frexiteur, favorable au service public, à la dépense publique. Vous avez celui de 2022 qui abandonne ces logiques, je dirais, de systémiques, mais qui quand même reste avec des considérations plus sociales sur les retraites. Et puis vous avez enfin la version 2024 qui, pour le coup, se libéralise au sens économique du terme. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu un transfert progressif d'une stratégie vers le libéralisme économique assez classique.
Vous n'avez pas de programme et de message macroéconomique clair du côté du Rassemblement National.
C'est ça
le problème, finalement.
De dire, nous ne sommes pas un parti qui va renverser la table, et dans la mesure où la crise, à mon sens, est systémique, et je ne l'assume pas comme auparavant, à mon avis, c'est une forme de clarté. Alors, c'est une forme de clarté qui vise à accepter d'être dans l'union des droites, lorsqu'avant... forme de cohérence. Accepter dans l'union des droites, c'est de dire j'accepte de jouer le jeu du libéralisme économique. Être dans le nini ou dans le je suis un peu de droite, je suis un peu de gauche...
Il s'agit bien de ça.
Sauf que vous avez vu que ce discours du ou du nini était un discours qui mêlait, je dirais, un autoritarisme sociétal avec un programme économique... je dirais très socialisant.
Et qui interroge les marchands, on en parlera dans un instant.
Oui, mais sauf que y a quand même quelque chose de très lisible, une trajectoire très lisible. Alors on peut s'en féliciter sur le plan personnel ou stratégique, ou le reprocher, ou se dire c'est vraiment le signe de quelque chose qui est un abandon. Peu importe, en tout cas, ce transfert ce bouger idéologique dit quelque chose de très clair.
Allez, on va aller on va voir comment les marchés en parlent. On regarde tout ça dans un instant. Ça a encore été assez tendu aujourd'hui sur les marchés. 19h30 sur BFM Business.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h34, on est reparti avec nos experts jusqu'à 20h sur BFM Business. Samuel Botton est avec nous, Alexandre Malafaille est toujours là, Franck Dedieu également, et Jean-Thomas Le Sueur, directeur général de l'Institut Thomas More, qui nous a rejoint, victime des bouchons parisiens. C'est tellement contemporain. Bonsoir Jean-Thomas.
Bonsoir Guillaume.
Bienvenue à tous. Alors on parlait un petit peu de l'assurance chômage, des retraites. Tous ces sujets inquiètent les marchés. Je vous disais, on avait atteint en fin d'après-midi un écart, vous savez, sur le entre le taux français et le taux allemand, ce qu'on appelle le fameux spread, qui est un véritable indicateur, on était à 70 points d'écart quand même. C'est un niveau qu'on n'avait pas vu depuis 2017. Voilà, il se passe des choses. Tout ça commence à inquiéter les marchés financiers. Et alors, il y a cette image assez intéressante, assez amusante qu'on voulait vous montrer. Il se trouve que Emmanuel Macron, je vous disais, est arrivé au sommet du G7 dans les Pouilles. Et, vous voyez, si vous le regardez à la télévision, il a été accueilli par Giorgia Meloni. Et on s'est posé la question, est-ce qu'Emmanuel Macron n'est pas quelque part en stage d'observation? Est-ce que ce qu'a fait Meloni en Italie, qui a su, je dirais pas dompter, mais apprivoiser les marchés, Est-ce que c'est potentiellement ce que Marine Le Pen pourrait faire et Jordan Bardella pourrait faire dans quelques semaines, finalement, Jean-Thomas Le Seur? Est-ce que vous voyez une concordance comme ça des...
Je ne sais pas s'ils peuvent le faire. Évidemment, ils vont l'ambitionner. Évidemment, aujourd'hui, Giorgia Meloni est le modèle politique pour tous les partis de droite, populistes, si on veut les appeler, ou post-populistes, comme les appelle Thibaut Musiag. Et je pense que le concept est assez intéressant, parce que je pense qu'on ne peut pas se contenter de dire que Giorgia Meloni est une populiste à la manière de Bolsonaro ou Trump. Ce qui est intéressant, et là où il y a une petite analogie à faire déjà à ce stade, c'est qu'il faut se souvenir qu'avant de prendre le pouvoir en octobre 2022, Giorgia Meloni avait opéré à partir de 2019 un vrai recentrage sur ses propositions politiques qui ont permis un accord programmatique, notamment avec Forza Italia, qui incarnait une force politique plus modérée. Alors évidemment, le temps politique choisi par le président de la République rend compliqué et compresse, si je puis dire, les possibilités de d'accorder les programmes, mais on peut prendre quand même le petit recul de Jordan Bardella sur les retraites comme une première concession, un premier signal envoyé qui va dans ce sens-là.
Donc, il dit que ce ne sera pas une priorité du moment, il ne dit pas je reviendrai. Alors voilà, c'est qu'on a commencé par nous dire nous reviendrons sur cette réforme des retraites, et lui dans la foulée a dit ce ne sera pas une priorité.
Bien sûr, voilà. Faut jamais, il ne va pas se dédire. Mais on peut l'analyser comme ça. C'est aussi dans le cadre de la construction d'une éventuelle alliance avec d'autres acteurs, dont les éventuels candidats victorieux d'Éric Ciotti, ça permet d'envoyer un signal à un électorat plus libéral, plus bourgeois, en disant, voilà, on sait qu'il faut être sérieux, qu'il y a une rigueur budgétaire à tenir, et effectivement, la question des retraites, enfin, on ne reviendra pas sur la réforme des retraites. Donc voilà, on en est là. Après, encore une fois, les comparaisons valent ce qu'elles valent, et encore une fois, on est surtout dans un temps politique complètement fou, on n'a que trois semaines, donc ce que je décrivais là pour Mélanie, qui l'a fait en deux ans, il y a trois semaines pour ces acteurs politiques qui veulent le faire.
Elle a donné des gages au marché, avec le mentor Mario Draghi en arrière-plan, évidemment.
Non, mais ça a joué, elle a donné des gages, c'était d'une rare habileté, elle a donné des gages non seulement en politique économique
personne
et financière,
n'y croyait à son
en politique étrangère, souvenez-vous-en aussi. Donc bien sûr, elle a eu le temps de le construire, le RN ne l'a guère.
Franck, c'est aussi la question qu'on veut poser ce soir, parce qu'on voit les marchés qui commencent à s'inquiéter depuis 2-3 jours, effectivement. Légitimement. Est-ce que vous prévoyez, question sans réponse, est-ce que vous prévoyez des premiers mois, si d'aventure le RN arrive en tête et obtient la majorité relative ou absolue, est-ce que vous voyez plutôt des premiers mois version Meloni, où on donne des gages au marché, ou des premiers mois version Liz Truss, emportée en quelques semaines par les marchés?
Les marchés avaient réagi, mais parce qu'il l'a trouvée trop libérale. C'est-à-dire qu'elle allait tellement consentir des baisses d'impôts qu'elle allait créer des déficits budgétaires, non pas parce que, à cause des dépenses, mais plutôt parce qu'elle avait un projet extrêmement libéral qui créait une sorte de déséquilibre budgétaire. Ce n'est pas exactement la même chose dont on parle. Je rappelle que Meloni, les premiers jours, les premières semaines, à partir du moment où elle a été Premier ministre, les marchés ont réagi très fortement. Ouais. Je crois qu'il y a eu un spread qui est allé au... Je ne veux pas dire de bêtises, mais peut-être 150 points de base, ce qui est quand même extrêmement important. Les 70 points de base ne sont pas vraiment majeurs par rapport au passé, premièrement. Deuxièmement, il y a un prix de la part des marchés de l'incertitude. L'incertitude, qu'elle soit RN, qu'elle soit Front Populaire, qu'elle soit, le risque d'alternance, a un prix par-delà la question du RN. Bon, après, savoir quelle est la part du RN. Moi, je suis assez d'accord avec mon voisin Jean-Thomas pour dire que dans la mesure, c'est ce que j'ai dit il y a 3 minutes, dans la mesure où il y a une lecture qui est assez simple du programme économique du RN, qui est version 1 de 2017, très à gauche, version 2 de 2022, je dirais pas systémique, mais avec quelques gages sur les retraites. Et version 2024, pour le coup, LR compatible, c'est-à-dire un programme libéral d'équilibre budgétaire. Alors, le problème, c'est, vous avez parlé de Meloni modèle, c'est un laboratoire, etc. Bon, elle a quand même pas été élue pour faire de l'atlantisme, de l'équilibre budgétaire, elle risque d'être elle aussi, par son versant populiste, rattrapée.
Alors Jean-Thomas et ensuite...
Pour l'instant, non, puisque pas tout à fait 2 ans après son entrée, elle est devenue présidente du Conseil, elle fait quand même quasi 29 points aux élections européennes. Elle est quand même assez populaire. Et par ailleurs, au contraire, le repositionnement programmatique qu'il avait été fait avant l'élection, notamment l'atlantisme, donc ça n'a pas été une surprise pour les électeurs. Je pense que quand même, je puis dire le et puis par ailleurs, c'est pour ça que le concept de post-populisme apparaît intéressant. Les spécialistes italiens parlent aussi de national-conservatisme. C'est très fort sur certains aspects conservateurs, sur l'immigration, sur la famille, etc. Mais c'est assez ouvert sur l'économie, c'est assez ouvert sur l'international. Sur l'Europe, elle se débrouille pas trop mal. Et pour l'instant, pas tout à fait deux ans après, les Italiens la suivent plutôt.
Alors, même question, Alexandre Malafaille et Samuel ensuite, bien sûr. Effet Truss ou effet Meloni dans les premiers mois d'une éventuelle gouvernance Rassemblement National en France ?
Le RN, il y a plus de deux ans, n'était quasiment nulle part dans les institutions, à part quelques mairies, quelques sièges dans les conseils régionaux, etc. Depuis deux ans, il y a une vraie empreinte, si je peux dire, à l'Assemblée nationale, et l'observation, c'est que montre qu'ils apprennent vite, ils apprennent en marchant, comme on dit, je mets des guillemets, parce que c'est attention à cette expression, mais est-ce qu'ils apprennent bien? Mais en tout cas, ils apprennent vite, ils apprennent bien. Ensuite, ils voient bien, évidemment, la masse de la dette. C'est pas de leur faute. Il y a 3000 milliards d'euros de dette, et ils savent que ça coûte très cher maintenant, parce que c'est un peu plus de 50 milliards par an, bientôt 70 milliards par an, de charge de la dette. Ça, ils le voient bien. Donc, ils peuvent pas faire n'importe quoi. Ils peuvent pas, en plus, mettre le feu, si je puis dire, au marché, se retrouver dans une situation encore pire qu'eux. Et après, ils ont deux leviers d'action. Le premier levier, ce sera de dire on fait le bilan et Marine Le Pen pourra prendre rendez-vous avec tout ce qu'elle a fait comme déclaratif ces dernières années, où elle a mis en garde, jeté des anathèmes prévisionnels en disant regardez ça, etc. Et donc elle va pouvoir effectivement faire tous les procès en sorcellerie qu'ils voudront faire et qui va permettre d'accabler les sortants de manière très sévère. Et là, le coup du bilan, il va marcher pendant un certain temps. Et puis après, ils vont lâcher du lest sur quelques sujets, sur l'énergie, c'est clair. Ils vont peut-être proposer des choses qui vont vraiment simplifier la vie des entreprises et là, ils vont se faire des copains. Si demain, ils prennent un décret pour dire on arrête le développement de la CSRD. Objectivement, je pense que le tissu des PME, des ETI et même des grandes entreprises, ils vont tous applaudir parce que pour l'instant, c'est une pétaudière d'enfer, quoi. Un truc qui a été pensé par le haut, qui a fait l'objet d'aucune simulation, d'aucune étude d'impact et qu'on déploie à marche forcée. Je veux dire, là, ils ont des leviers d'action qui coûtent pas cher.
Il va falloir vraiment lâcher beaucoup de lest parce qu'on sous-estime toujours la capacité des marchés. Une fois que vous avez perdu la confiance des marchés, il faut peu de temps pour perdre la confiance des marchés, mais il faut beaucoup de temps pour la retrouver dans la foulée. Donc vraiment, il va falloir qu'ils soient très opérationnel.
Le vrai
début,
sujet des marchés, à mon avis, à court moyen terme, c'est-à-dire jusqu'à la rentrée, c'est la sécurité. Oui. C'est l'état de la France entre maintenant et la fin des JO. Oui. Je parle de septembre et de la rentrée. Voilà, c'est ça le sujet.
Samuel, je pense que l'économie, elle va passer au second plan. Et déjà, il y a une différence fondamentale entre le système italien et le système français. Ça fait déjà plusieurs années que le Front National a entamé une stratégie de dédiabolisation, on peut même prononcer le mot normalisation, et ça se voit en même temps que leurs évolutions sur le discours économique. Alors si j'étais taquin, je vous dirais que j'ai pas beaucoup entendu Jordan Bardella parler économie pendant la campagne des européennes.
Personne.
Je ne les ai même pas entendus parler d'Europe. On parle d'effet Truss ou d'effet Meloni, moi j'ai plutôt envie de rapporter à ce qui s'est passé aujourd'hui ou hier soir en Argentine, un effet Milei où on pourrait avoir des scènes d'insurrection, clairement. L'exercice du pouvoir apaisé du RN, je n'y crois pas. Et surtout, ils sont en train de revenir à une dure réalité qui est celle de la différence entre la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir. Oui, dans la conquête du pouvoir, vous pouvez promettre, vous devez promettre, et peut-être même plus que nécessaire. Quand vous arrivez aux affaires, vous êtes dans la dure réalité. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que j'ai la faiblesse de penser que le RN va rentrer dans une stratégie d'attentisme. L'objectif, c'est de ne pas faire de vagues pendant les deux prochaines années s'ils arrivaient au pouvoir. Pourquoi ? Parce que vous avez une élection qui arrive dans trois semaines, ça va aller très vite. Est-ce qu'on sera sur une majorité totale? Je pense pas. Relative, c'est beaucoup plus probable. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour pouvoir mettre en place le programme qu'ils ont choisi? Je pense pas non plus, ça sera très difficile. Et on pourrait même croire qu'il serait un passe-plat pour la continuité de la politique d'Emmanuel Macron, parce qu'aujourd'hui, les différences sont pas si fondamentales. Donc on change de braquet dans le discours, on commence à distiller les premiers éléments et à dire, mais en fait, nous, on va arriver, on va voir ce qu'on peut faire, on va hériter d'une situation. Et c'est ce qui va se passer sur les deux prochaines années, on va être dans l'élément de langage. Là où je suis très inquiet pour le RN, et du coup reprendre le propos de Jean-Thomas, c'est effectivement sur la politique internationale. Là, pour le coup, il y a des vraies craintes, il y a des vraies questions à se poser, et c'est des sujets qui pourraient ressurgir très très vite.
Bon, la notion de domaine réservé, elle tient toujours dans ce genre de circonstances ou pas?
Encore plus que jamais.
Ou c'est un peu galvaudé tout ça?
Ça, on verra, parce que ce serait une nouvelle cohabitation, une troisième dans l'histoire de la cinquième. Je peux pas vous répondre, je sais pas qui sera aux affaires étrangères, j'en sais rien. Par contre, là où vous avez infiniment raison, c'est quand même que je pense qu'aux yeux des électeurs, les questions économiques et notamment financières, etc., vont être très largement au second plan. Et si le RN la joue bien, c'est pas ça qu'ils vont mettre en avant en arrivant au pouvoir.
On disait déjà, passons les mois de juillet et d'août, effectivement, pour les questions sécuritaires, on verra ce qui se passe. passera. Il nous reste 5 minutes avant vos avis du soir pour parler, parce que alors c'était un petit peu l'invité surprise de la conférence de presse d'Emmanuel Macron hier. Il nous a reparlé du millefeuille territorial et de sa volonté de simplifier les échelons territoriaux, supprimer un échelon territorial, lequel on ne sait pas. Quand on ressort ça, c'est quand même l'Arlésienne, c'est que on ne sait plus quoi raconter, ou qu'il y a quelque chose à tirer encore véritablement ou pas, Jean-Thomas là,
c'est... Oh, bah, je vais être très sévère, je pense que c'est une manière pathétique pour un président on ne peut plus vertical, parisien et urbain, d'essayer d'envoyer maladroitement des signaux aux Français des territoires, comme ils disent. Voilà. Après, qu'il y ait un infini besoin de décentralisation, de libération et de confiance sur le territoire, moi je l'ai 100 fois plaidé sur votre plateau, donc 100 fois oui. Mais regardez, mais comme ça, le dernier rapport disponible, celui d'Eric Woerth, il y a un mois, on est dans une espèce de montagne technocratique dont rien d'important ne sort.
Lui dit, il n'y a pas besoin de Big Bang, tout simplement.
Oui, voilà. Oui.
En fait, la difficulté, c'est que quand on étudie ça de près, et ça fait 10 ans qu'on bosse dessus avec Sinopia, on se rend compte que la suppression d'un échelon, c'est quand même particulièrement compliqué. Surtout que maintenant, en plus, on a mis une réforme qui consiste à avoir de nouvelles des régions avec un découpage. Et quelque part, on a aussi besoin des régions pour une certaine coordination générale. Donc, en fait, aujourd'hui, l'intérêt du rapport Woerth, c'est à un moment donné de dire à chaque collectivité son niveau de compétence. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, la mairie s'occupe de la proximité, le département s'occupe du social, et la région s'occupe de l'économique. Et de manière très claire. Ensuite, il y a effectivement une volonté de retour d'un état stratège, c'est-à-dire de donner au préfet notamment, avec non seulement de la décentralisation mais de la déconcentration et peut-être de la simplification administrative, le moyen de coordonner des vraies politiques à l'échelle territoriale, sinon c'est très compliqué. Ensuite, il y a effectivement besoin
dans ce cas-là, c'est pas de la décentralisation.
Non, mais bien sûr, de toute façon, de manière pratico-pratique, celui qui voudra s'y attaquer en disant je coupe, mais d'abord
je pense qu'il va falloir opposer un jour déconcentration et décentralisation.
Mais c'est, faut faire les deux en même temps.
Non, je pense qu'il faut déconcentrer au minimum.
C'est même opposé. Mais moi, je me demande s'il n'y a pas, dans cette histoire, deux éléments de langage qui se sont successivement opposés. Vous avez les grandes régions du plan 2015, c'était l'idée du fantasme des Landers, des grandes régions qui allaient l'emporter, qui étaient économiques, qui plaisaient beaucoup aux élites, et qui allaient l'emporter sur les vieilles nations recroquevillées.
Et là, la logique de François Hollande,
c'était ce fantasme de métropolisation de façon décentralisée. Et puis là, on est en train de passer à un autre élément de langage, c'est celui de la simplification.
Oui. Et déjà présent sous Hollande. Hein.
Voilà.
Oui, ils ont empilé tous les rapports écrits sur le sujet, vous avez jusqu'à la
On a bien vu 10 ans après que c'est un échec technique, administratif, et même en termes financiers. Oui. Donc, de passer d'un... C'est marrant parce que je suis assez d'accord, la décentralisation, c'est un vecteur, un producteur, un ressort d'éléments de langage un peu cucu la praline, qui est quand même... incroyable. Hier, les Landers, aujourd'hui la simplification. Ce qu'on peut peut-être imaginer derrière la sortie, qui est de dire il faut supprimer, pourquoi pas, un échelon, c'est de se dire, là, il y a quand même deux visions du monde entre la région, historiquement, entre la région qui est l'échelon pro-européen, pro-Landeur, pro-fédéraliste, et puis l'échelon départemental qui est celui de la République, qui s'occupe du social. Et donc là, effectivement, l'idée de se dire on supprime, là, peut-être que j'extrapole un peu, mais l'idée de se dire on supprime les régions, ça veut peut-être dire, eh bien, on s'assoit sur quelque chose qui est fondamental, qui est celui de la République et qui était l'héritier de la Révolution française.
Samuel, pour vous, quoi, c'est le gadget qu'on sort
Alors, c'est un sujet qui déjà remonte à Defferre et Mitterrand, Dieu seul sait si ça fait combien de temps qu'on se le traîne. Et la vraie question qui, pour le coup, n'a pas bougé depuis ces années, c'est comment est-ce qu'on adapte les structures aux défis de leur époque ? Les époques ne sont pas les mêmes, ça évolue, ça change beaucoup. Donc aujourd'hui, la question, c'est trouver le bon équilibre dans le paysage administratif. On en revient à la notion de simplification. Comment est-ce qu'on épure les doublons ? Comment est-ce qu'on fait des régions et des métropoles des locomotives ? Et surtout, comment est-ce qu'on pallie à la question de l'égalité et de l'équité ? L'égalité, c'est une chose, l'équité, c'en est une autre. Et c'est vers l'équité qu'il faut tendre en fonction des savoir-faire des différentes régions, de leur savoir-faire. Vous en avez certaines qui sont plus industrielles que d'autres qui sont plus axées sur le tourisme, d'autres sur l'innovation. Donc sur l'industriel, je pense au nord. Sur le tourisme, je pense à l'Occitanie et à les régions à côté.
Les régions du sud.
Sur l'innovation technologique, la région Auvergne-Rhône-Alpes, je pense, est un de nos meilleurs fers de lance actuellement. Donc, on est sur un chantier permanent. La question, c'est comment est-ce qu'on arrive à remettre les bonnes prérogatives dans les mains des bonnes institutions. Donc, il faut prendre en compte les spécificités locales. Comment est-ce qu'on les rationalise ? Fusion des communes et renforcement intercommunalité, l'incitation financière.
Une catastrophe démocratique, monsieur.
Pardon ?
C'est une catastrophe démocratique, les fusions des communes et les intercos.
Attendez, non. Sur ça, ça veut dire les mettre chacune à leur bonne place et faire en sorte qu'elles arrivent à bosser ensemble. Donc, c'est ce qui n'a jamais été fait aujourd'hui.
Mais là, vous évacuez surtout la question politique. Or, en fait, elle est absolument centrale dans l'espace local, puisque c'est le dernier espace de confiance politique français. Si on continue d'abîmer les communes, comme on l'a fait avec les 16 intercours.
Mais les communes, il ne faut pas les abîmer, il faut continuer à leur donner les prérogatives.
Sauf que c'est la voie, le dernier rapport Terrain
besoin de soutien. Il faut
faire évaporer les communes dans le cadre des bassins de vie.
Elle est dépendante d'un conseil départemental et du conseil régional. C'est là-bas qu'elles vont chercher leur financement.
Jean-Thomas, pour finir là.
Prenez Marseille, l'argent, il n'est pas à Marseille. Il est au conseil régional, il est au conseil départemental. Et Benoît Payan, aujourd'hui, il est dans une situation où.
Alors, Jean-Thomas, pour conclure.
Oui, rapidement. Moi, je pense que la meilleure solution, c'est surtout pas un jardin à la française en disant faut supprimer tel échelon, etc. Il faut donner de la liberté aux acteurs locaux, effectivement fixer des objectifs. Mais qu'importe si ici il y a des communautés de communes immenses, si c'est pertinent, qu'importe si là elles sont toutes petites, qu'importe si on fusionne une métropole avec un département comme ça a été fait à Lyon, qu'importe. Ce qui compte, c'est que ça marche, mais surtout que le lien démocratique et le lien social demeurent.
Bon, je suis pas sûr qu'on en parle dans la campagne d'ici les trois prochaines semaines. À mon avis, c'est plus comme sûr. Ça. Et ce sera ça pas fait repartira aussi vite et on en reparlera encore dans quelques années. Absolument. Allez, 3 minutes à peine, l'extra time pour terminer. Vos avis du soir, coup de gueule ou coup de cœur sur une trentaine de secondes. Franck, est-ce que vous voulez commencer?
Moi, pour une fois, je vais féliciter l'Union européenne. C'est-à-dire que je trouve que les droits de douane appliqués sur les véhicules électriques chinois, eh bien, les petits malins des localisateurs se font un peu pincer les doigts. Évidemment, on pense à les marques chinoises qui paieraient les droits de douane pour arriver en Europe, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a des marques qui sont des marques françaises, des marques allemandes, qui se retrouvent sous le coup d'une taxe et qui commencent à se dire, au fond, est-ce que j'aurais pas dû éviter de délocaliser, est-ce que j'aurais pas dû rester à la maison?
Et voilà, le coup de cœur ce soir.
Ce qui prouve que le politique peut parfois, lorsqu'il montre un peu, il bombe le torse, il peut avoir le dessus sur l'économique.
Nous n'en doutions pas du tout. Alexandre Malafaye, 30 secondes, Alexandre, pour vous, pour votre coup de gueule ou coup de cœur.
C'est le même sujet, mais version coup de cœur, mais non, coup de gueule en fait. Parce que le coup de gueule, je le porte pas donc sur le principe, que je trouve très pertinent, très intelligent, sauf qu'en pratique, aujourd'hui, à court terme, on n'a pas l'offre. On n'a pas les voitures, et qui va payer? Bah, une fois de plus, c'est le consommateur final qui va payer, parce qu'on a dit qu'il fallait passer à l'électrique, et donc on va soit acheter chinois taxé, soit acheter européen mais plus cher, et au bout du compte, c'est en effet le consommateur qui paye, dans une dynamique où on se pose comme la question de savoir s'il faut vraiment aller vers le tout électrique à horizon 2035, donc je mets plutôt carton rouge, et je regrette qu'effectivement on fasse ça maintenant, parce que ça va encourager le vote RN.
Le coup de gueule d'Alexandre Malafaye ce soir, Jean-Thomas Lesueur, 30 secondes.
Oui, je vais aller vite, c'est les chiffres de défaillance d'entreprise que la Banque de France a sorti aujourd'hui. Chiffre important, légère augmentation, et surtout ce qui inquiète, c'est qu'on sait que dans les catégories, enfin dans les tailles d'entreprises, c'était généralement les micro-entreprises qui étaient les plus touchées, et là sont impactées ETI et PME. Ce qui n'est vraiment pas un bon signal
Absolument.
Pour l'emploi, la croissance et la situation économique globale de notre pays.
Qu'on regarde bien sûr de très près tous les mois sur BFM Business. Samuel Botton, c'est à vous, 30 secondes.
Alors moi, j'ai hésité à vous parler de Maëva Guénam chez LFI, mais je me suis dit que c'était un peu loin de l'audience, donc on va parler de Soazic, de la maçonnière et des deux photos m'ont interpellé. Donc le cliché où on voit Attal et Darmanin qui sont complètement sonnés et la conversation Macron-Pivet, chez moi ça suscite curiosité et incompréhension.
Ils font une tête. Allez-y, oui.
D'un côté, on est dans la contemplation d'un moment d'histoire qui est le plus dramatique de la Ve République. On ressent toute la pression sur l'image. On peut même entendre la conversation sur la photo avec Yael Braun-Pivet. Et en même temps, ça me renvoie à la politique spectacle. Il y a de l'indécence, de la photographe qui se met en scène indirectement, du moins je l'espère, et qui banalise un moment aussi crucial de notre histoire. Donc du coup, on est dans l'instagramisation et la tiktokisation de la vie politique française, et il faut redonner de la force à nos institutions et à eux de mettre fin à ce cirque permanent.
Et ben voilà pour votre coup de gueule ce soir, mon cher Samuel. Merci messieurs, c'est terminé. 19h54, Franck de Dieu, Jean-Thomas Lesueur, Franck de Dieu, et donc je rappelle le numéro de Marianne, voilà.
C'est en vente dès maintenant.
Et ben voilà, les 8 pièges tendus aux Français à l'occasion de cette dissolution, à lire dans le magazine Marianne de cette semaine. Franck Dedieu, Jean-Thomas Lesueur, Samuel Botton et Alexandre Malafaye. Merci messieurs, à très vite avec grand plaisir. 19h54 dans un instant, Tech & Co avec François Sorel. 22h, Impact by Tcherkov avec Audrey Tcherkov qui reçoit ce soir Céline Gréco, chef de service à l'hôpital Necker à Paris. On se retrouve demain pour nouvelles aventures. Bonne soirée.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.